BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Il est 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez comme tous les soirs dans Good Evening Business. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume. Bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, alors ça a été l'image du jour, forcément la petite descente à Matignon des parlementaires Éric Coquerel et Charles de Courson pour glaner des infos sur le budget. Bon, ils sont ressortis bredouilles au bout d'une heure à peu près. On va évidemment, entre autres, en parler avec votre invité dans des
minutes. Oui, c'est clair, on va en parler avec Sylvain Maillard. Il est député aujourd'hui de Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. C'est lui qui présidait le groupe. Gabriel Attal lui a piqué sa place. Mais on verra avec lui, on parlera de ce bras de fer, de Barnier avec Éric Coquerel et Charles de Courson. On parlera du retour de l'ISF. Est-ce que c'est une ligne rouge pour les LR, bien sûr, mais aussi pour la Macronie. Et puis, on parlera quand même de Thierry Breton pour voir si cette commission sans Thierry Breton, est-ce que c'est pas la France déclassée ?
Commission dont le casting a été dévoilé aujourd'hui. Stéphane Séjourné y est. Il y a quelques noms sur lesquels on reviendra, bien sûr, avec les experts, évidemment. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr.
Good evening business, le journal.
Donc, il a été dévoilé aujourd'hui comme prévu le casting de la nouvelle commission d'Ursula von der Leyen. Bonsoir Léo Dumas, vous êtes à Strasbourg. Elle n'a pas donné que des noms, elle a aussi essayé de donner un semblant de cap, Léo.
Oui, une architecture simplifiée et un mot d'ordre, la compétitivité, comme l'a recommandé Mario Draghi dans son rapport publié la semaine dernière. Et parmi les priorités fondamentales d'Ursula von der Leyen, il y a la sécurité, la prospérité et la démocratie, des axes qui doivent définir cette nouvelle commission européenne et qui se reflètent chez les 6 vice-présidents exécutifs nommés ce matin, 4 femmes et 2 hommes, car si ces nominations ont tant tardé, c'est qu'il a fallu travailler sur la parité. Regrette la présidente de la commission à qui les États ont proposé seulement 22% de femmes. Après négociation, c'est désormais 40% sur l'ensemble des 26 commissaires nommés, des commissaires qui devront tous se parler, avertit Ursula von der Leyen. Il s'agit maintenant de travailler de manière interconnectée et sur un pied d'égalité.
Voilà donc pour la philosophie. Puis dans le casting, il y a donc bien le français Stéphane Séjourné, Léo.
Et oui, confirmation pour Stéphane Séjourné. Le candidat français sera bien vice-président exécutif en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. Il sera également responsable des PME et du marché unique. Un portefeuille très large, mais qui reste dans la continuité de Thierry Breton. Ursula von der Leyen, en tout cas, attend de lui qu'il mette en place les conditions pour plus d'investissement et plus d'innovation. Il sera un excellent commissaire, a-t-elle assuré devant la presse tout à l'heure. Parmi les autres figures importantes qui obtiennent une vice-présidente, il y a Teresa Ribera, la ministre socialiste de l'Environnement en Espagne. Elle récupère un large portefeuille sur la transition écologique. Et puis, il faut mentionner Raffaele Fitto, le candidat envoyé par Giorgia Meloni, qui devient vice-président en charge de la cohésion et des réformes. Son étiquette d'extrême droite, malgré tout, fait grincer des dents ici chez les eurodéputés. Ce sont d'ailleurs eux qui auront le dernier mots, puisqu'ils doivent auditionner chaque nommé cet automne avant toute entrée en fonction.
Merci beaucoup Léo Dumas donc à Strasbourg pour BFM Business. 18h04 en France, je vous le disais, ça a donc été l'image forte de la journée. La descente des parlementaires Coquerel et Courson à Matignon pour essayer de glaner des infos sur le budget 2025, sur les fameuses lettres au plafond. Ils sont ressortis bredouillot une heure plus tard, mais Éric Coquerel ne lâche pas l'affaire. Écoutez.
On se demande ce que ça cache. Pour aller vite, on se demande pourquoi il s'enferme dans cette vision, peu démocratique des choses. Nous le dénonçons et je peux vous dire si le rapporteur général veut m'accompagner, que demain, moi, j'irai à Bercy, puisque c'est de Bercy que sont partis ces documents, pour les exiger et voir si Bercy a exactement la même réponse. Mais cette situation devient absolument insupportable, intenable et non compréhensible.
Voilà, suite du feuilleton donc demain, mais on va largement reparler bien sûr ce soir avec nos experts sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, la petite phrase du vice-chancelier allemand Robert Habeck, qui appelle l'Europe et la Chine à trouver, je cite, une solution négociée sur le dossier de l'éventuelle taxation des voitures électriques chinoises à l'importation. Il faut éviter une guerre commerciale, a dit Robert Habeck aujourd'hui. Alors, puisqu'on parle de l'Allemagne, on a donc appris tard hier soir qu'Intel avait décidé de reporter un projet d'ouverture d'usine dans le pays. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Alors, comme il y a déjà eu des annonces du même tonneau en Europe récemment, on a envie de se poser la question, est-ce qu'Intel est en train de bouder l'Europe, Frédéric ?
Oui, c'est vraiment un virage à 180 degrés. Donc, le projet de cette méga-usine en Allemagne, 30 milliards d'investissements quand même, et pour lequel le gouvernement allemand devait verser 10 milliards d'euros, eh bien, voilà, mise en suspens jusqu'à d'ici deux ans. En Pologne, pareil. Et puis, ça regroupe tout un ensemble de choses qui avaient été annoncées en mars. En fait, aujourd'hui, on sent que, bon, Intel a des publications financière très mauvaise. Ils ont un chiffre d'affaires qui a vraiment chuté entre 2021 et 2023, 79 milliards à 52 milliards peut-être en 2024. Et aujourd'hui, on sent que tous les efforts se concentrent sur les États-Unis. L'administration Biden veut mettre jusqu'à 100 milliards autour de ça. Ils ont déjà versé 20 milliards. Et c'est depuis son berceau américain qu'Intel veut relancer la machine. Un, sur l'innovation, rattraper son retard sur l'IA par rapport à Nvidia ou par rapport à des nouveaux entrants comme Qualcomm. Deux, sur son business model, il va produire des puces en exclusivité pour Amazon Web Services, le géant du cloud, pour le département de la défense américaine, ou alors, troisième point, il devrait filialiser son activité de fonderie, de fabrication de processeurs, et pouvoir travailler avec, alors faire d'une part venir des nouveaux investisseurs, et de l'autre pouvoir travailler avec d'autres industriels. Bon. Donc voilà, vraiment nouvelle stratégie d'Intel. Malheureusement, pour l'Europe, et puis il y avait même un centre de...
À Saclay, il y avait un centre
de 1000 personnes qui avait déjà été annoncé en mars, qui serait reporté. Donc voilà, l'Europe, on verra plus tard.
Bon, on ne boude pas l'Europe, voilà. Stand-by pour l'instant, priorité aux États-Unis. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. 18h07, on va sur les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé ce mardi à la Bourse de Paris ?
Mais plutôt bien. On termine sur une hausse de 0,51%. On échoue à maintenir les 7500 points qu'on a dépassés en séance. Mais 7487 points, le volume de change, bon, correct sans plus, 3 milliards, un petit peu plus, 3,1 milliards d'euros d'actions négociées. Le DAX à Francfort, plus 0,5%, plus 0,7% pour l'Eurostock 50. Alors, la techno se portait bien. D'ailleurs, l'Euronext Tech Leaders gagne un peu plus d'1%. ST Microelectronics, plus forte hausse du CAC 40, plus 2,73 à 25,57 €. Mais on a aussi des valeurs un petit peu plus traditionnelles qui étaient aux avant-postes. Saint-Gobain, plus 2,7 à 80,78 €. Edenred, plus 2,39 à 36,42 €. Il y a un secteur, en revanche, qui signe une nette contre-performance. Alors, il y avait une dépêche Bloomberg qui parlait cet après-midi de l'éventualité de pourparler de paix autour de l'Ukraine. Et ça a suffisamment été pris au sérieux par les marchés pour faire reculer, alors assez sensiblement, le secteur de la défense. Thales, notamment, signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 3,8%. Puis on a Dassault Aviation aussi, moins 2,73 à 185,60 €. Sinon, c'est plutôt du tout bon sur cette journée de bourse. Belle hausse, plus 0,51%. Et l'euro face au dollar, 1,1121 $.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Évidemment, mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones, plus 0,2%, 41 703 points. Le Nasdaq, de son côté, qui grappille 0,7%, 17 720. Tout ça à la mi-séance. 18h08, c'est donc le député Ensemble pour la République de Paris, Sylvain Maillard, qui est l'invité d'Eddy Chevrillon. La grande interview arrive dans deux petites minutes. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Sylvain Maillard. Il est député de Paris Ensemble pour la République. C'est lui qui présidait le groupe à l'Assemblée nationale et Gabriel Attal qui lui a piqué sa place. Bonsoir Sylvain Maillard.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Alors tiens, je vais vous citer une phrase. On aimerait savoir qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité. C'est Fabien Roussel qui dit ça avant d'aller à Matignon. Et en sortant, il dit... Ce gouvernement ne tient qu'à un fil de droite ou de gauche. Vous, vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition, vous êtes où ?
Oui, nous, on s'est inscrit à l'Assemblée nationale. Vous inscrivez, en fait, dans la majorité ou dans l'opposition. Et ça va dépendre, entre autres, à la commission des finances des places que vous pouvez avoir. Et donc, nous sommes inscrits dans la majorité.
Oui. Vous êtes dans quel état d'esprit, Sylvain Maillard, en cette rentrée ? Parce que vous aviez tout. On en disait un mot là tout à l'heure. Vous étiez au cœur du dispositif, au cœur de la Macronie. Puis tout d'un coup, là, vous êtes totalement. Vous regardez les trains passer, enfin, du moins les défilés passer à Matignon. Ça doit être évident pour toute la Macronie.
La vie politique est ainsi faite. Nous avons perdu les élections le 7 juillet dernier. Mais personne ne l'a gagné. Et donc, nous devons être responsables. C'est ce que nous sommes, responsables. C'est-à-dire construire une majorité, une coalition avec Michel Barnier, faire en sorte de trouver les moyens de voter un budget, de porter des politiques publiques, comme nous ont demandé les citoyens pendant cette élection, en disant il nous faut faire en sorte que ceux qui travaillent gagnent mieux leur vie, de faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité, de souveraineté.
Juste pour clarifier, parce qu'ici on ne fait pas beaucoup de politique politicienne, enfin de la politique, qui a gagné, c'est LFI ou c'est le RN ?
Personne n'a gagné, puisqu'il n'y a aucune majorité possible.
Non, mais il faut compter en nombre d'électeurs, il faut compter en nombre de députés.
En fait, vous pouvez compter comme vous le souhaitez, en fait, il y a trois blocs de taille relativement égale et des blocs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et donc il va falloir qu'on construise une majorité, c'est le travail de Michel Barnier, de construire une majorité. En tout cas, aucune majorité ne peut être construite sans le groupe Ensemble pour la République.
Mais alors, et vous êtes prêts, parce que lorsque vous voyez là, le bras de fer sur le budget, on va y revenir, on a vu le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, qui lui évidemment était LFI, mais avec Charles de Courson, qui est Elliott, aller à Matignon demander les fameuses lettres plafond, et puis peut-être les confidences de Michel Barnier en disant qu'il y aura une hausse de la fiscalité sur les riches, sur les entreprises. Vous vous sentez dans le gouvernement, dans le futur gouvernement ou en dehors ?
Trois questions. Donc la première, c'est de l'esbrouffe, hein, ce que fait Éric Coquerel et Charles de Courson. Ils vont réclamer des lettres plafond faites par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal pour des ministres démissionnaires. Donc on voit bien que ça n'a aucun intérêt. C'est à Michel Barnier de refaire une lettre plafond et de réorganiser son gouvernement. Il a demandé encore quelques jours, dont acte. Donc nous attendons ce qui est sa déclaration de politique générale et les ministres qu'il va nommer. Sur la deuxième partie...
Alors juste sur ce point, pardon. Donc c'est un droit constitutionnel ou pas de la part ? Parce que normalement, c'est ce que disent Éric Coquerel, Charles de Courson, puisqu'ils sont les représentants de la Commission des Finances. C'est un droit constitutionnel, d'autres disent que non.
C'est pas un droit constitutionnel, c'est un usage. Mais d'ailleurs, l'ensemble des documents qui a été fourni à la Commission des Finances, dont on a pu prendre possession, c'est plutôt beaucoup plus que ce qu'on avait des années précédentes. Il y a une vraie base de travail, mais Michel Barnier vient d'arriver, il n'a pas encore nommé un gouvernement, et c'est lui qui fera des nouvelles lettres de lettres plafond que nous pourrons discuter. Et il a demandé un report, puisque le budget devait commencer au 1er octobre, il a demandé un report de quelques jours.
Oui, du 9 octobre, oui. Ça vous paraît tenable, vu qu'on n'a toujours pas de gouvernement ?
Oui, c'est logique, tenable. En tout cas, il faut nommer un gouvernement relativement rapidement pour qu'on puisse se mettre au travail.
Oui. Sur la question de la fiscalité, hein, on va revenir là-dessus. Ce budget, est-ce que c'est en fait, c'est pour ça que ça traîne tant ? C'est que ça va être décisif pour savoir où se situe justement le gouvernement Barnier et le Premier ministre. C'est-à-dire, est-ce que c'est à droite ou c'est à gauche ?
Bah, c'est surtout trouver un budget à l'équilibre. On a besoin d'un budget des premiers travaux que nous avions faits, l'ancienne majorité avec Bruno Le Maire, avec Jean-René Cazeneuve, l'ancien rapporteur général. Il nous faut entre 17 et 25 milliards d'économies. On avait déjà gelé 10 milliards sur le budget au début de l'année parce qu'on voyait un ralentissement des recettes. Et donc, il faudra trouver un budget qui nous permette de garder cette trajectoire, d'être en 2027 à 3% de déficit. Pourquoi on l'est ? C'est pas un dogme.
Oui, vous savez, si c'est un dogme.
Enfin, l'endettement, il y a du bon endettement et du mauvais endettement. Oui. Quand il y a trop d'endettement, on risque tout simplement d'avoir un dérapage et à la fin... on ne trouve plus de créanciers pour payer notre dette. Non, ça, et puis surtout, un taux d'intérêt qui augmente. Et le taux d'intérêt qui augmente, ça augmente pour l'État, évidemment, qui emprunte. Et ça augmente pour vous, pour moi, pour les entreprises.
On sait que la France, la signature de la France reste quand même toujours très bonne.
Édith Chevrillon, moi j'entends, on peut toujours dire ça, et au fond, faisons aucun effort.
Moi, je dis pas ça.
À un moment, il y a une réalité qui nous rattrapera, et donc faire en sorte d'être raisonnable avec l'argent public. L'argent public, c'est votre argent, c'est notre argent à tous. Il faut y faire attention, et donc il faut être économe et faire en sorte d'être efficace. Chaque argent, chaque euro dépensé d'argent public doit être un euro efficace. Ouais. C'est ça le défi de ce budget.
Vous savez que c'est pas forcément la musique qu'on a envie d'attendre Français. Hein. Du reste, c'est intéressant de voir qu'il y a même Giorgio Meloni qui a dit que l'Italie serait en 2027 sous les 3%. Ça fait bizarre hein, quand on est français. C'est-à-dire que même l'Italie fera sans doute mieux que nous.
D'abord, c'est une alerte parce qu'on est probablement là-dessus un des plus mauvais élèves en Europe. Donc, il faut faire cet effort. C'est ce que nous avons dit. Et moi, ce que m'ont dit nos concitoyens, on était en élection encore il y a pas très longtemps, c'est de faire en sorte que le travail paie plus. Ils ne demandent pas à vivre des subsides de l'État. Ils demandent à ce que le travail et que le brut soient proche du net.
Ce qu'ils demandent,
et donc, c'est ça
plus...
qu'on nous entend.
de justice fiscale. En tout cas, c'est ce que demandent les Français quand on regarde les sondages. Et c'est ce qu'a dit Michel Barnier dans son interview donc à TF1. Maintenant, ça fait une dizaine de jours. Plus de justice fiscale, il a dit deux fois. Là, on dit qu'il aurait dit qu'il y aurait peut-être une hausse des salaires pour les plus aisés. Donc, et puis, une forme de retour sur l'ISF et une taxe sur les super-profits. Est-ce que c'est une ligne rouge pour la Macronie, pour Ensemble la République, pour vous, Sylvain Maillard?
Nous, on est prêt à rentrer dans une coalition avec Michel Barnier, avec les LR, avec Liotte, avec Horizon, avec le Modem, pour construire une majorité relative. Dans une coalition, il y a les lignes forces. Nous, c'est ce que nous avons défendu dans un pacte d'action qu'a porté Gabriel Attal à Michel Barnier, que nous avons rédigé tous ensemble, les députés d'Ensemble pour la République. Et dedans, nous avons des lignes forces sur l'écologie, sur la justice sociale, c'est vrai, sur le fait de travailler, grâce au travail, nous devons gagner plus d'argent, et que ça, c'est une vraie attente. Mais de rappeler une chose, nous sommes la majorité, nous avons été la majorité pendant 7 ans qui baissait les impôts. Baisser les impôts, ce n'est pas un dogme. Plus on baisse les impôts, plus il y a de l'activité économique.
Oui. Mais en même temps, moins il y a chômage, les finances publiques.
Plus il y a des rentrées fiscales. Non. Jamais il y a eu autant de rentrées fiscales quand on a baissé les impôts. Et donc nous disons, attention, ne pas casser la dynamique efficace que nous avons mis en place. Nous sommes pas si loin du plein emploi. Attention de ne pas briser cette dynamique.
Ok, sauf que vous voyez l'état des finances publiques. C'est ce qu'on pourrait vous rétorquer. Est-ce que c'est une ligne rouge pour vous? C'est-à-dire que si jamais il y a une forme de retour, on touche à la flat tax, on retouche à l'impôt sur le revenu, si jamais il y a quelque chose sur l'impôt sur les successions, est-ce que c'est une ligne rouge
Ce n'est pas notre choix.
Oui.
Notre choix, je le dis,
sûr,
il y aura des discussions. Ce n'est pas notre choix. Notre choix, nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de recettes, plus d'activités pour qu'il y ait plus de rentrées fiscales.
On est d'accord.
C'est pas de prélever plus.
Maillard,
on est déjà les champions du monde dans l'OCDE.
Vous savez, ici, on le dit à la longueur
Michel Barnier aura sa stratégie, on va en discuter ensemble. Il y aura évidemment des discussions. Nous sommes dans une coalition. Nous, notre position d'Ensemble pour la République, c'est de ne pas d'augmenter les impôts.
Voilà. Mais est-ce que, encore une fois, je repose ma question, est-ce que c'est une ligne rouge? Les LR, Laurent Wauquiez, il a dit c'est une ligne rouge. Bon, moi, c'est clair. Est-ce que c'est la même chose pour vous?
En tout cas, il y aura une discussion dessus. Nous, on le redit. Edwige Chevrillon, ce sera une discussion collective qu'on aura à l'ensemble des députés. Nous ne souhaitons pas augmenter les impôts. Pour une raison très claire, ce n'est pas dogmatique. Hein. Vous savez, on peut toujours envoyer un signal de dire, au fond, on veut punir les riches, les sociétés qui réussissent. Pourquoi ? Enfin, j'entends le signal politique. On dit une seule chose, notre objectif, c'est le plein emploi. Si on n'a pas le plein emploi, nous n'arrivons pas à financer nos services publics. Et donc, nous ne voulons pas casser la dynamique qui s'est installée depuis 7 ans, qui fait que depuis 5 ans, on est la France et le pays le plus attractif d'Europe. Nous voulons garder ça, nous voulons réindustrialiser. On a besoin de garder cette dynamique. Donc, pour nous, augmenter les impôts n'est pas le chemin que nous voulons. Ouais. Et je le dis, par contre, on peut travailler sur certaines niches fiscales. On a déjà là-dessus, nous,
une. Par exemple, quoi ? L'assurance-vie, sur quoi ?
Par exemple, je l'ai toujours porté sur le crédit impôt recherche. Je pense qu'il y a dessus des voies de passage sur lesquelles on peut faire des économies et d'être plus efficaces. Il y a l'apprentissage. Vous avez raison. Moi, j'y suis très attaché. J'avais porté avec Muriel Pénicaud la réforme de l'apprentissage. On peut regarder comment faire.
Ça marche très bien. Là aussi, on peut se demander pourquoi.
Ça marche très bien. Est-ce que sur le supérieur, sur les grosses entreprises, il peut pas y avoir aussi une aide des uns des autres et de ne pas financer tout le temps par le budget? Je crois que là-dessus, ça se regarde.
Et sinon, où est-ce qu'on peut trouver les économies?
Eh bien, on peut continuer à regarder en se disant, est-ce que chaque euro dépensé est un euro efficace? Il faut aussi une réforme de l'État, il faut qu'on continue la réforme de l'État, la réforme de l'hôpital. Il y a
personne ne l'a fait, donc on ne va pas le faire tout de suite, là, vous êtes clair.
Oui, mais je crois que là-dessus, on a déjà commencé un travail sur lequel il va falloir aller beaucoup plus loin. Il y a du travail, parfois qui se voit moins, mais très, très certainement, nous ne pourrons pas continuer à dépenser autant.
Oui, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait? Alors, pardonnez-moi, j'ai l'impression d'entendre ça comme si vous avez été dans l'opposition depuis toujours. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, je suis un auditeur, un téléspectateur, et vous dites, mais disons, Sylvain Maillard, pourquoi vous n'avez pas fait la réforme de l'État? Tout le monde disait, appelez ça de ses voeux, ça fait quand même très longtemps que vous êtes au pouvoir.
La stratégie dans laquelle nous étions pendant 7 ans, c'est de faire en sorte de faire grossir les recettes.
Oui,
non, mais donc, il y a plus d'activité,
plein
d'emploi.
Mais il n'y a pas eu réforme de l'État.
La réforme de l'État, on l'a commencé, je pense qu'il faut aller plus loin, beaucoup plus loin.
Dans l'hôpital, les hôpitaux, nulle part. Seul endroit, il y a une réforme de l'État, mais ce n'est pas vous qui l'avez initiée, c'est à Bercy.
on a aussi, vous nous en ferez crédit, on a vécu deux crises extrêmement fortes, et le Covid et les gilets jaunes, et très vite les gilets jaunes, qui ont fait que au fond la priorité a été de booster l'activité plutôt probablement que de réformer suffisamment l'État. Il faut aller plus loin dans la réforme de l'État. Ouais. Mais ça veut dire qu'il va falloir trouver des majorités pour ça. Ouais. Vous savez, tout le monde veut dire, oui, on veut faire des économies. Dès qu'on arrive au budget, ça, tout le monde veut faire que des dépenses.
Donc, ouais, si il vous faut supprimez être des niches,
raisonnable. Ouais. C'est impopulaire de faire des réformes qui demandent des efforts. C'est
mais
impopulaire.
Faut du courage.
Quand on a fait la réforme des retraites, regardez, on a été seul à porter une réforme difficile en disant il faut travailler plus. Parce que tout le monde travaille plus, on a une société qui vieillit, pour pouvoir garder notre niveau de pension. Vous avez vu à quel point cette réforme était impopulaire. Et au fond, on sait très bien que si on veut garantir des pensions, il n'y a pas d'autre choix. Porter des réformes impopulaires,
oui, mais est-ce que vous avez fait ?
C'est très difficile.
Pardonnez-moi, 14 milliards sur la supprimer la taxe d'habitation. Vous avez augmenté les recettes, un petit point, les retraites, les petites retraites, c'était bien, 14 milliards. Mais on n'a pas les moyens. Suppression de la taxe sur l'audiovisuel. La redevance.
C'est un choix qu'on a fait de donner plus de pouvoir d'achat aux Français.
Oui.
Non, mais c'est nous sommes déjà le pays qui taxe le plus.
Oui.
Et donc, nous avons rendu du pouvoir d'achat aux Français. Et là-dessus, pourquoi ? Pour qu'ils consomment. Et évidemment, faire en sorte qu'il y ait une imposition.
Dans les caisses, il
n'y
avait plus rien dans les caisses.
Ce n'est pas vrai. On a juste une baisse des recettes parce qu'il y a un ralentissement assez fort de l'économie. Vous le savez bien, on est sur BFM Business.
Ah oui.
Vous le dites suffisamment. C'est ce ralentissement de l'économie qui
donc
a commencé à la fin de l'année dernière.
Vous n'avez aucun regret par rapport à ce qui a été fait.
À la fin de l'année dernière, évidemment, nous impacte. Et donc, il faut qu'on fasse comme dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel ménage, quand il y a une baisse des recettes, qu'on puisse adapter notre voilure.
Et vous êtes chef d'entreprise. Aucun regret sur ce qui a été fait, donc, Sylvain Maillard.
Mais si on avait tout bien fait, Edwige Chevrillon, nous n'aurions pas perdu les élections.
Oui, non, mais c'est pas possible parce qu'on peut.
Évidemment qu'il y a des choses qui ont pas été bien fait, en tout cas qu'on, les Français estiment que nous n'avons pas bien réussi, évidemment, mais je crois que le schéma dans lequel nous sommes inscrits de faire en sorte que la baisse d'impôts, qu'il y ait moins de chômeurs, et qu'on arrive au plein emploi, que le travail paie plus, je crois que ce sont les bonnes, et la réindustrialisation du pays, je crois que ce sont des points importants et qui sont à mettre au crédit d'Emmanuel Macron depuis 7 ans.
Vous avez vu quand même sur le rapport Oxfam qui montre que les super héritiers les français sont particulièrement dans le communautaire de l'ONG. 0,1% des héritiers reçoivent aujourd'hui environ 13 millions d'euros en moyenne, soit 180 fois l'héritage médian. Il n'y a pas quand même un peu de justice fiscale à faire, là ?
Et c'est une vraie discussion sur l'héritage. D'ailleurs, c'est tout à fait surprenant parce que quand vous faites des sondages, quel que soit le niveau d'héritage qu'un Français peut avoir, il est contre l'impôt sur l'héritage, qui peut être une discussion philosophique d'ailleurs. Au fond, est-ce qu'on ne devrait pas tout remettre à zéro et on peut entendre. Moi, ce que j'entends, c'est surtout sur le fait que on a protégé par certains héritages en disant, par exemple, pour moi, qui est très efficace, le pacte Dutreil, qui permet de transmettre
les PME.
Qui est
mis en cause en disant que ça coûte très cher.
Oui.
Mais après, pour les entreprises, c'est essentiel.
Que qu'on soit très clair, dans l'application du pacte Dutreil, il y a forcément des points sur lesquels il faut que nous revenions. Par exemple, sur la construction de l'immobilier à l'intérieur du pacte Dutreil peut poser question sur ce que nous mettons à l'intérieur du pacte Dutreil, puisque l'idée, c'était de préserver les entreprises, ce n'était pas forcément de préserver l'immobilier des entreprises. Et donc là, il y a sûrement des discussions et des voies, je pense, assez simples de consensus, de faire en sorte qu'on protège les entreprises, la transmission des entreprises, elle reste bien française, mais à côté de ça, ça ne doit pas être une niche fiscale pour
L'immobilier, pour maintenant, fait partie souvent des usines, tout ça, ça fait partie aussi du business, business d'une entreprise.
Oui, enfin, dans une entreprise, il y a deux choses.
Oui.
Il y a évidemment l'outil de travail et puis l'immobilier qui est autour de l'outil de travail.
Ouais.
Quand l'immobilier est lui-même exonéré du patrimoine, d'exonération de droits de succession, ça peut poser question.
Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé à Bruxelles, Sylvain Maillard, lorsque vous avez Thierry Breton qui claque la porte en disant que de toute manière il ne peut pas travailler avec Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen qui dit de toute manière moi je ne peux pas travailler avec lui, qui dit à la France c'est simple, donc c'est du chantage. Soit c'est Thierry Breton qui reste, à ce moment-là vous aurez un périmètre petit, soit il s'en va, vous aurez un périmètre plus large. Là, on se retrouve avec Stéphane Séjourné qui fait la prospérité et la stratégie industrielle. Il n'a même pas la défense. On a tout perdu sur les deux tableaux, non ?
Moi, je pense que Stéphane Séjourné sera un très bon commissaire européen. D'abord,
en
il a été président du groupe Renew, groupe stratégique pendant 5 ans. Il a permis de trouver des majorités et imprimer une vraie marque au Parlement européen avec un vrai esprit de négociation européen. Donc je pense que ce sera un très bon commissaire. Sur la deuxième, sur les rapports entre Thierry Breton, qui a été un très bon commissaire, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, qui a porté sur la souveraineté des programmes, je trouve qu'il a été extrêmement efficace et vraiment je veux saluer son travail. Il y a une vraie inimitié, vous l'avez dit, entre Ursula von der Leyen, qui est la chef de l'équipe, et Thierry Breton. Il faut l'entendre. Je peux regretter.
C'est une erreur de Thierry Breton, ça, à ce point de vue-là.
Non, je n'ai pas jugé, je ne connais pas le détail des uns des autres. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Stéphane Séjourné sera un très bon candidat. Ouais, il a un très beau périmètre. Il a un très beau périmètre.
Non, ce n'est pas un énorme périmètre, il n'y a même pas la défense. Ouais.
Oui, enfin, bon, quand de la stratégie industrielle, on est vraiment au cœur de ce que nous voulons porter ici en France. Donc, c'est un beau périmètre et il a le titre de président, de vice-président. Je suis assez confiant là-dessus.
Oui. Parce que quand vous dites c'est collectif, lorsqu'on voit que, et je dirais c'est un sujet inflammable, c'est l'Italien Raffaele Fitto, qui est membre du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, qui a obtenu aussi le titre de vice-président. Ça ne va pas forcément être collectif au sein de la Commission européenne. Donc,
Ursula von der Leyen,
c'est les Allemands qui ont choisi.
Son porte-parole, il faut trouver un collectif qui fonctionne.
Mais là, ce n'est pas un collectif entre l'extrême droite.
Je pense dessus, en tout cas, je sais que la voix de la France sera parfaitement portée avec Stéphane Séjourné.
Bon, d'accord. Là, je crois qu'on n'obtiendra rien d'autre.
Ben, je crois que c'est clair.
Merci beaucoup, Sylvain Maillard, d'avoir été avec nous. Donc, pour l'instant, pas d'augmentation d'impôts, mais ce n'est pas encore une ligne rouge. En tous les cas, vous ne l'avez pas encore franchi. Merci d'avoir été avec nous.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, ils sont là, nos experts. La première partie pour refaire ensemble, bien sûr, l'actualité économique du jour. Rebonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume.
On va parler notamment de ce que nous a dit Sylvain Maillard. Il y a eu beaucoup de sujets évoqués. Emmanuel Le Chypre est avec nous également. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
À commencer par, alors, ce qui était l'image du jour, évidemment, la petite descente d'Éric Coquerel et de Charles de Courson du côté de Matignon pour essayer d'obtenir les fameuses lettres plafond dans la préparation de son budget 2025. Bon, Sylvain Maillard, on en parle dans un instant, on va écouter Éric Coquerel qui nous dit c'est de l'esbrouf. Écoutez, Éric Coquerel qui est sorti au bout d'une heure de Matignon, déçu mais qui ne veut pas lâcher l'affaire, cela dit.
On se demande ce que ça cache. Pour aller vite, on se demande pourquoi il s'enferme dans cette vision, j'allais dire, peu démocratique des choses. Nous le dénonçons et je peux vous dire déjà, je verrai si le rapporteur général veut m'accompagner, que demain, moi, j'irai à Bercy, puisque c'est de Bercy que sont partis ces documents, pour les exiger et voir si Bercy a exactement la même réponse. Mais cette situation devient absolument insupportable, intenable et non compréhensible.
Bon, donc, suite du feuilleton demain, qu'est-ce que ça cache
Ce que disait Sylvain Maillard, mais de manière si simple, c'est de l'aide plafond, ces fameuses lettres plafond, elles sont caduques, parce que c'était le budget qu'a préparé Bruno Le Maire.
Oui.
Donc elles sont caduques. Donc ça va dépendre de la politique que veut faire Michel Barnier. Donc ça ne sert à rien de les demander. Alors, lui me disait, ce n'est pas un droit constitutionnel, comme le disait Éric Coquerel, sachant qu'il est président de la commission des finances.
C'est plus de la bonne pratique administrative, mais dans l'absolu, le gouvernement, avant que le
rapporteur, disait qu'en fait, jamais Éric Coquerel les avait demandé avant.
Oui.
Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-René Cazeneuve, ex-rapporteur de la Commission des finances.
Les constitutionnalistes vous disent, en général, les parlementaires ne reçoivent pas les lettres plafond avant que le projet n'arrive au Parlement.
Donc, c'est ce que dit Michel Barnier. Enfin, Michel Barnier, il a été clair, il a dit, en tous les cas, pour moi, c'est au cœur de mon gouvernement, donc je ne vais pas les dévoiler comme ça.
Emmanuel, comment est-ce que vous regardez cette séquence autant couleur? Ça va se poursuivre demain, puisqu'Éric Coquerel ira taper demain à la porte de Bercy pour obtenir les lettres plafond, qu'il n'obtiendra pas plus, a priori. Enfin, voilà.
C'est assez ridicule, en fait. Ça correspond à une... Enfin, je veux dire, il y a aucun enjeu, finalement, derrière ces lettres. Tout de suite, qu'est-ce que ça cache. Donc, ça contribue à cette espèce d'hystérisation.
C'est déjà caduque. Ça le sera quand Barnier donnera orientations.
C'est caduque.
Et ça le sera quand tout arrivera au Parlement, où tout va être dynamique, de toute façon.
Alors, c'est pas si caduque que ça, parce que, quand même, il y a un moment où il a fallu un peu administrativement avancer. Et déjà, on sait que, de toute façon, il est peu probable que ces lettres de plafond seront dépassées, ça, c'est sûr, avec ce qu'a dit Michel Barnier. Donc, Donc, c'est simplement que voilà, c'est pas prêt quoi. Et donc oui. cette hystérisation du débat, elle est et on voit bien que c'est une stratégie, c'est-à-dire qu'on entretient cette idée que le gouvernement cache des choses, qu'on fait tout pour essayer de réduire, de limiter un petit peu l'exercice de la démocratie, que il y a tout un tas de choses qui ne sont pas normales, scandaleuses. On essaye de générer une forme d'indignation qui n'a pas lieu d'être. Je veux dire, les lettres de cadrage, on les connaît. On sait qu'on était obligé de les faire parce que l'étape administrative importante de pérenniser le budget 2024 vers 2025, il fallait bien le faire. Je pense que Michel Barnier, il a encore des gros arbitrages à faire et que voilà, il n'aurait pas eu de d'informations supplémentaires. Donc je pense que c'est une forme d'hystérisation du débat qui est un peu dommageable, en attendant de voir finalement ce qu'on va véritablement avoir. Oui. Sachant que les vrais sujets, ce
on
sera,
va y venir dans un instant.
En plus, là où c'est comique, si vous voulez, c'est que on voit bien que Éric Coquerel, vu ce qui est plutôt annoncé, il a plutôt des raisons de se réjouir que des raisons de s'inquiéter,
oui, mais
puisque
c'est pour la forme, là, oui.
puisqu'on
oui.
entretient cette idée alors, qu'il va y avoir des hausses d'impôts, etc., alors, etc.
Lire la phrase de Michel Barnier.
Edwige.
Ce document sera à lire comme reflétant un état à la date de discussion préparatoire du budget ayant valeur de socle de travail pour notre gouvernement. Il pourra faire l'objet d'évolution. Bon. C'est un socle de travail. Donc, c'est clair que pour l'instant, il n'a pas encore défini son socle de travail. Ça dépend avec qui il va gouverner, quoi.
Tout ça, comme dirait Fabien Roussel. Tout ça sur fond. Alors, vous en parliez aussi avec Sylvain Maillard sur cette petite musique qui monte. Michel Barnier songe à augmenter les impôts. On parle des entreprises profitables. On parle des contribuables les plus aisés. Voilà. Il y a ce fond de sauce, quelque part.
Il avait dit de justice fiscale. Il l'a dit, il faut plus de justice fiscale. Il en a parlé deux fois. Il y a le rapport d'Oxfam, donc, qui est sorti, ce que je disais tout à l'heure, qui est sorti là aussi sur la question, cette fois-ci, des transmissions et de qui détient l'héritage. Donc, on voit bien qu'il y a. En même temps, la concentration a été bien plus forte il y a encore 30 ans, hein, quand on regarde les chiffres. Mais enfin, en tous les cas, sur la fiscalité, a priori, il veut y toucher. Il faudra bien qu'il donne un signal, à condition, ça veut dire qu'il peut pas être trop à droite, quoi.
Il peut pas être trop à droite parce que alors on a senti quand même Sylvain Maillard très très mal à l'aise sur les éventuelles hausses d'impôts.
Oui, absolument pas. Alors, j'ai pas réussi à lui faire dire si c'était une ligne rouge pour la Macronie comme ça l'est pour les LR.
Bah du côté des LR, en tout cas, c'est la ligne rouge là, clairement. Là, c'est mission impossible quand vous regardez sur le papier. Où allez-vous trouver les sources d'économies ou les recettes supplémentaires? Comment est-ce que vous naviguez entre, d'un côté, les LR, le bloc Renaissance, et puis le Rassemblement National, évidemment, qui va se faire un plaisir?
Non, mais il faut bien rappeler la logique très particulière dans laquelle se trouve ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas dans une logique de projet d'un gouvernement. On est, en gros, dans une logique dans laquelle il va falloir naviguer entre les lignes rouges fixées par les uns et les autres, le président de la République, le Premier ministre, qui a quand même aussi quelques convictions, et puis les différents partis et leur rapport de force à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui est très clair, c'est qu'effectivement, une contribution d'une façon ou d'une autre des plus aisés serait assez bienvenu, mais je veux dire il faut la négocier.
Sous quelle forme?
Rappelez-vous rappelez-vous le bon exemple, par exemple, c'est ce qu'avait fait Dominique Strauss-Kahn en 97 après les législatives. Quand il arrive à Bercy, en fait, il demande aux entreprises un effort, il négocie avec le MEDEF à l'époque pour leur demander un effort, et effectivement, c'était plutôt bien passé. Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que... alors, sur les hauts revenus...
C'était un one-shot, cette histoire, à l'époque?
Oui, et après, il y avait un effort, il y avait du pouvoir d'achat pour les ménages, il y avait un effort des entreprises, et en fait, tout ça avait après été absorbé par la formidable croissance qui avait suivi. Donc, mais c'était un deal réussi. Là, moi, ce que je crains, c'est que, sur les plus fortunés, on voit bien qu'une contribution exceptionnelle, pourquoi pas. Moi, j'ai peur, si on commence à tripatouiller les histoires de succession,
ça reste,
là où c'est compliqué, il y a un sujet extrêmement sensible qui est le pacte du Trail. C'est-à-dire que, alors, on voit bien que ce serait logique que le pacte du Trail soit plafonné. parce qu'il ne l'est pas aujourd'hui. Mais quand vous commencez, vous savez, les riches, c'est des petits oiseaux extrêmement farouches. Et donc, si on commence à tripatouiller ça, moi, je pense qu'on va se retrouver inévitablement avec à nouveau le scénario de 2013-2014.
Ils vont partir
avec,
en Suisse ou en Belgique.
Avec des gens qui vont partir. Donc,
et des ventes d'entreprises.
Et qui ne reviendront pas.
Et qui ne reviendront pas.
Oui.
Voilà. Et après, peut-être qu'une contribution spéciale sur le revenu serait peut-être...
Il faut faire une pédagogie autour d'un one-shot, peut-être.
Juste, oui, le problème des one-shots, encore une fois, c'est qu'en France, on ne connaît pas les one-shots. Et donc, à chaque fois qu'il y a une surtaxe, elle est pérenne, elle devient pérenne. Non, sur le pacte du Dutreil, c'est pas moi qui le dis, c'est Sylvain Maillard. Là, tout à l'heure, il disait, notamment, il y a l'immobilier qui rentre dedans, l'immobilier. Et là, on peut peut-être... ils ont un peu trop chargé. Parfois, ils chargent un peu trop la barque et qu'il y a des excès. Donc, peut-être faut-il sortir l'immobilier. Ouais. Alors, après, il y a l'immobilier qui sert à l'entreprise. On s'en souvient de toutes les discussions. Mais en tous les cas, sur le pacte du Trail, il dit qu'on peut forcément trouver des économies.
Tout ce qu'on raconte, c'est sur les recettes fiscales, sur les économies.
Comme
vous lui avez posé la question.
Sur le crédit impôt recherche.
Oui. Mais sur les économies, il est resté sur les vieux poncifs, Sylvain Maillard.
Oui, mais il y a déjà.
Le pacte du Trail et le crédit impôt recherche. Excusez-moi.
Il est resté sur l'efficience de la dépense publique. Enfin, voilà,
Pour l'efficience de la dépense publique, il y a des choses qui sont assez bien documentées sur des inefficacités ou des gaspillages et qui ne feront pas tort à grand monde. C'est vrai que si on va chercher...
C'est vous qui nous dites que si on empile tous les rapports sur le sujet, on va jusqu'à la Lune.
Non, mais là, ne serait-ce que sur les 6 derniers mois, entre ce qu'a sorti le Conseil d'analyse économique, ce qu'a sorti l'Inspection générale des finances, etc. Vous prenez par exemple le crédit impôt recherche. En France, l'État finance 20% de la recherche privée. Ouais. C'est 6% dans les pays de l'OCDE. Ouais. On peut peut-être gratter 2-3 milliards. Ouais. Ça a été dans le... Voilà. Sur notre ami Bruno Coquet, avec son couplet sur
l'apprentissage.
Mais là, c'est plusieurs...
Les super, super formés.
C'est plus une question de réaffecter les
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on cherche... Si on cherche des économies, on peut les trouver sans que ce soit trop douloureux. Il y a des aides aux entreprises, il y a quelques trucs où, effectivement, on peut faire des efforts sans que ce soit trop pénalisant.
Il faut que...
Mais après, il va falloir aussi, effectivement... Moi, ce que j'ai peur, c'est que si on tripatouille la fiscalité autour des entreprises, que l'impact soit désastreux sur le message envoyé de l'instabilité française, etc.
Surtout que les entreprises sont dans une période difficile.
En tout cas, ça va être la foire aux suggestions et aux ballons d'essai pendant les prochains jours, voire les prochaines semaines. 18h45, on va parler un peu de Bruxelles. Le nouveau casting dévoilé de la Commission. J'accueille Benaouda Abdedaïm qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, Benaouda. Le temps que vous installiez, on va écouter Ursula von der Leyen qui a donc présenté ce casting aujourd'hui à Strasbourg. Allez, 17 secondes pour résumer la philosophie de la prochaine Commission européenne. Écoutez.
Wherever we come from,
d'où que nous venons, quelle que soit notre fonction, nous devons tous travailler ensemble. Nous devons débattre, nous devons rester indépendants. La seule chose qui doit nous guider, c'est l'intérêt européen.
Voilà, 27 noms, 16 hommes, 11 femmes et quelques noms qui retiennent l'attention. On va regarder le petit tableau, on va voir quelques noms, ils sont 27. Confirmation déjà, bien sûr, Benaouda, Stéphane Séjourné fait partie de ce casting, évidemment.
Oui, dans la demi-douzaine de vice-présidents exécutifs de la Commission européenne, il a son portefeuille, un portefeuille économique élargi qui porte sur la compétitivité. Il a notamment le marché unique, c'est un pilier de l'exécutif européen, le marché unique, le marché intérieur. Mais par rapport à son prédécesseur compatriote Thierry Breton, il n'a pas le numérique, ce qui est là aussi un pilier de l'exécutif européen. Et il n'a pas non plus ce qui a constitué une forme de projet majeur de la présidence française d'Emmanuel Macron et de sa vision pour la construction européenne, c'est-à-dire l'industrie de défense, qui sont octroyées à d'autres commissaires européens. Et pour ainsi dire, Stéphane Séjourné arrive... Voilà, exactement, ancien Premier ministre lituanien et qui est un grand connaisseur des affaires étrangères.
Oui.
Et il s'avère que Stéphane Séjourné arrive avec deux handicaps, son manque criant d'expérience des affaires européennes comparé à ses collègues de la Commission. Il a été 8 mois seulement au Quai d'Orsay, où il n'a pas laissé le...
Non, mais il était avant dans le groupe Renew.
2 ans et demi, mais lorsqu'il aura affaire, notamment à ce Premier ministre lituanien, lorsqu'il aura affaire à Ursula von der Leyen, lorsqu'il aura affaire à un certain nombre d'anciens Premiers ministres, il va avoir des difficultés à imposer par son autorité sur les dossiers cette ligne française que souhaite voir porter à Bruxelles le président français. C'est un ancien, enfin c'est un actuel, pardon, parlementaire européen allemand qui s'appelle Andreas Schwab, qui est un pilier du Parlement européen, un chrétien démocrate, qui a dit que, à l'heure active, qu'il n'a pas l'expérience des affaires pour s'imposer face à des personnalités comme Elon Musk, parce que c'est une question d'épreuve de force permanente que Thierry Breton et d'autres menaient dans cette précédente commission. Il va falloir qu'il démontre très rapidement qu'il a non seulement la confiance du président de la République française, mais aussi les épaules pour tenir de tels dossiers.
Stéphane, il a été outillé pour le job. Il n'a plus la technologie, il n'a plus la tech et il n'a plus la défense. Donc il n'aura pas forcément Elon Musk devant lui.
Mais il devra démontrer qu'il est en capacité de tenir face dans de grands dossiers. Et encore une fois, la manière aussi avec laquelle il arrive à ce poste fait qu'il apparaît plus comme un ambassadeur de France
Macron et Michel Barnier.
Comme un pilier de cette Commission européenne, c'est à lui de faire ses preuves.
La vigie quelque part d'Emmanuel Macron du côté de Bruxelles, est-ce qu'il a le cuir suffisamment tanné pour vous, Emmanuel?
La Benahouda, elle est édifiante. Voilà, moi, ce que je trouve quand même assez stupéfiant, c'est que à chaque fois qu'on a besoin d'une personnalité d'envergure en France pour défendre nos intérêts dans les grands postes internationaux, il n'y a que Stéphane Séjourné dans le casting. J'ai du mal à croire quand même qu'il n'y a pas d'autres personnalités françaises qui auraient cette
d'autres intérêts, d'autres intérêts. Voilà,
parce que en plus, comme l'a très bien dit Benahouda, pour peser à la Commission européenne. La nature du portefeuille que vous avez, c'est une chose, mais compte autant la carrure et la personnalité du Français qui occupe un poste de responsabilité. Et donc, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire que c'est Emmanuel Macron qui gère en direct l'Europe, mais ça tiendra pas parce qu'il ne peut pas être effectivement tous les jours
Et puis, il est le représentant de la 5e famille politique au Parlement européen, Renew. Les libéraux ne pèsent plus que ce sont les numéros 5. Donc, déjà obtenir une vice-présidence exécutive dans cette Commission européenne, c'est déjà un exploit.
Et on est la France quand même.
Oui, mais on est l'Allemagne, on est l'Italie, on est l'Espagne, on est l'Europe. De ce point de vue-là, peut-être qu'un conservateur ou un social-démocrate envoyé de Paris aurait très certainement eu beaucoup plus de poids politique. Dans, encore une fois, c'est Angela Merkel qui le dit, vous pesez ce que pèsent vos troupes au Parlement européen. Et de ce point de vue-là, Renew pèse moins que quatre autres familles politiques.
Oui, mais à ce moment-là, on retourne dans la politique politicienne à la française, c'est-à-dire qu'il fallait, comme ça, le poste de ministre des Affaires étrangères est dégagé pour une autre personnalité, et puis en même temps, Emmanuel Macron peut recaser comme ça son ami.
Donc du coup, ça consiste à faire ce qu'on a fait pendant des années, c'est-à-dire envoyer à Bruxelles
des intérêts nationaux peut-être comprimés dans cette histoire, c'est effectivement
aucune carrière. C'est dommage au moment où beaucoup de choses se négocient quand même.
On va avoir 2-3 minutes, Benahouda, peut-être pour... Alors, ils sont 27, on ne va pas faire l'inventaire évidemment des 27 commissaires européens, peut-être s'attarder sur 2-3 profils qui suscitent beaucoup de commentaires ce soir quand même.
On peut déjà remarquer que Ursula von der Leyen, avec un acte d'autorité, s'est débarrassée de toutes les têtes qui dépassent. Oui. Social-démocrate la plupart. Thierry Breton était le seul à... Mais ce qui est très marquant, c'est que dans cette commission géopolitique que Ursula von der Leyen veut porter dans le renforcement de la souveraineté de l'Union européenne, ce sont les pays baltes qui recueillent les portefeuilles les plus stratégiques. Donc cet ancien Premier ministre lituanien qui est le commissaire à la défense et à l'espace. Ceci dit, on lui demande de travailler à l'Union européenne de la défense. Il va vite comprendre que c'est une affaire d'État souverain en la matière. Et puis, l'ancienne Premier ministre lettonne Kaikalas, qui va être la chef de la diplomatie de l'Union européenne. Là aussi, elle va vite comprendre que les ministres des Affaires étrangères se trouvent au Conseil et pas dans les services exécutifs. Mais quoi qu'il en soit, ce sont ces deux profils baltes très orientés vers le dossier ukrainien-russe, sans aucun intérêt pour les autres dossiers, c'est-à-dire ceux qui concernent le Sud global, parce qu'elle a beau avoir été première ministre de son pays, strictement personne ne la connaît au Brésil, en Afrique du Sud, en Chine ou ailleurs. Donc de ce point de vue-là, on remet la politique étrangère de l'Union européenne entre les mains de l'Europe orientale et des pays baltes en particulier, ce qui d'une certaine manière revient à nier la dimension méditerranéenne de l'Union européenne et de l'exécutif européen.
Et peut-être 30 secondes pour dire un mot de l'un des noms peut-être les plus controversés de cette liste, c'est l'Italien Raffaele Fitto, membre du gouvernement de Giorgia Meloni, qui obtient obtient un poste dans cette nouvelle commission.
Oui, là aussi, les vice-présidents. Vice-président chargé de la cohésion régionale, donc en clair de la distribution, notamment de la mise en œuvre du plan de relance. C'est lui qui a été, en tant que ministre des Affaires européennes, là pour distribuer les 200 milliards d'euros du plan de relance pour l'Italie.
Ouais.
C'est, disons, un centriste au sein de la... pour ainsi dire, de la famille souverainiste nationale conservatrice. Mais quoi qu'il en soit, c'est là aussi un vice-président exécutif à la hauteur de Stéphane Séjourné. Ouais. Et de ce point de vue-là, il risque d'y avoir un certain nombre d'accrochages assez rapidement entre des sociodémocrates, des souverainistes, des libéraux au sein de cette Commission européenne qui, de ce point de vue-là, est vraiment façonnée par la présidente Ursula von der Leyen.
Mais je rebondis sur ce que vous disiez. Et c'est ce que vous disiez déjà hier, Edwige. Je me souviens, on me disait, on verra s'il y aura encore beaucoup de poids lourds. Et là, vous voyez effectivement des Bretons, des Gentiloni, des Franz Timmermans, des Joseph Borrell, des Margrethe Vestager. Voilà, ils sont tous à haute.
Ah oui, non, il y a
c'est quand même assez incroyable.
Pourtant, en Suisse, ces dossiers européens, il n'y a que des gens qu'on connaît peu, à part effectivement l'ancien Premier ministre italien, mais lituanien.
Et ça met à mal cette notion fondamentale de la Commission européenne qu'est la collégialité. S'il n'y a qu'une personne qui décide. D'ailleurs, si vous lisez le discours de Ursula von der Leyen, c'est marquant, c'est j'ai décidé, il va me rendre compte à moi. On avait l'impression d'un PDG qui décidait. Vraiment...
Une pratique du pouvoir très verticale, quoi.
Non, mais oui, mais ça, on le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas un scoop. Donc, c'est vraiment là, je comprends absolument pas la stratégie du président de la République française.
Non, Manuel veut laisser sa chance au produit, apparemment. Enfin, je parle de cette nouvelle commission dans son ensemble,
alors,
évidemment.
Pour relativiser, il faut bien rappeler que, autant le mandat précédent a été un mandat où énormément de chantiers ont été lancés, où énormément de projets ont été lancés. Ce mandat-là sera plutôt un mandat d'exécution et de mise en place toutes les grandes réformes.
Mais non, il y a le rapport Draghi. L'Europe est en train de tomber un peu dans un trou coincé entre.
Non, mais d'accord, Edwige. Mais ça n'empêche que c'est pas parce que
Mario Draghi. Il y a urgence, là.
Non, mais ça fait 30 ans qu'il y a urgence. Mario Draghi, il a fait son rapport. On voit pas bien quel sort qui lui est réservé. Là, la réalité, c'est que tout ce qui est pacte vert, etc., tout ça a été mis en place. Maintenant, ça va être un mandat d'exécution. Le seul chantier qui sera prioritaire et qui arrivera peut-être à émerger de vraiment nouveau et qui pourrait enfin se concrétiser, c'est le fameuse unification du marché du capitaux qui est un chantier prioritaire. Mais pour le reste, ce sera un mandat où on implémentera, où on mettra en place les grands chantiers qui ont été lancés.
Il faut la supprimer. Hein.
Et voilà pour cette commission. Alors, vote des eurodéputés, hein, tout ça n'est pas acquis encore. Un vote des eurodéputés pour valider l'ensemble de cette équipe. Allez, 18h55, vue sur le web, c'est Marine Lodeau qui nous rejoint tout de suite sur BFM Business. On met en... avant tous les soirs. Bonsoir Marine, un article de bfmbusiness.com avec ce qui semble être une nouvelle affaire de discrimination salariale chez BNP Paribas, Marine. Hein.
Oui, alors en fait, il y a une instruction qui est en cours chez BNP Paribas UK qui vise directement le bureau de Londres.
D'accord.
Oui. Et c'est une affaire de discrimination un peu étonnante, en fait, selon les allégations de la plaignante. C'était une employée qui était en charge des activités de courtage. Un manager du bureau de Londres aurait passé des consignes pour redistribuer les bonus qui étaient prévus pour les salariés femmes, pour les redistribuer aux hommes. Et on parle de 60% de coupe des bonus prévus pour les femmes.
Et sur quoi s'appuie cette plainte alors, Marine ?
À première vue, le dossier paraît un peu mince. Donc en fait, l'audience n'est pas ouverte, hein, on est encore au stade de l'instruction. Ça repose sur des témoignages de lanceurs d'alerte anonymes. Donc, un des témoignages s'appuierait sur un témoin qui aurait vu des mails qui donnaient des consignes en ce sens, et un autre sur une collaboratrice qui serait allée prendre à partie ce manager. Bon, en contrepartie, elle aurait vu sa note de performance dégradée. Donc, on est sur des témoins indirects.
Qui répond la banque, exactement, alors
Elle n'est pas ravie de cette publicité.
Bien sûr,
déjà, elle nous explique, parce que donc, j'ai échangé avec BNP Paribas, elle nous explique déjà que l'affaire en est à ses débuts. Donc, en fait, rien n'est jugé et que, en fait, le battage médiatique qui commence à prendre leur plaie modérément. Et également qu'ils ont diligenté une enquête, en fait, dès qu'ils ont eu connaissance de la plainte, c'était en début de l'année, et que l'enquête interne n'a montré aucun signe de dysfonctionnement, et les emails en question n'ont pas été retrouvés ni identifiés.
Et pourquoi cette affaire-là est suivie de près, en fait, alors ?
Alors, parce qu'en fait, la plaignante n'en est pas à son coup d'essai. En 2019, donc elle s'appelle Stacy McKen, elle avait déjà porté plainte pour discrimination pour son cas individuel. Elle estimait être moins bien payée que son collègue, et effectivement, il y avait un écart de rémunération de l'ordre de 25%. pour un même poste, à compétences égales, et surtout, elle a gagné. Et elle a gagné, elle a eu des dommages et intérêts historiques, elle a gagné plus de 2 millions de livres de dommages et intérêts. Et son avocate, à l'époque, avait évoqué un jugement historique en faveur de l'égalité salariale. Donc, effectivement, la banque avait reconnu un manquement individuel. Elle avait conduit un audit externe qui, tout en reconnaissant un cas isolé, avait dit il n'y a pas de manquement, enfin, il n'y a pas de discrimination systémique dans la banque. Et quand même un petit point, donc c'est un sujet qui est en cours d'instruction, mais les écarts de salaire, c'est bel et bien une réalité, ça l'est aussi en France. Donc on ne parle pas de 25% d'écart chez nous. Hein. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, on était à 4% d'écart entre un homme et une femme.
Tout de même, aujourd'hui.
Là, il y a la question des bonus. Hein,
oui, mais c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est les bonus. Et, et comment vous évaluez la performance, c'est compliqué.
Oh bah ça, c'est chiant, ça, c'est assez...
mais c'est très individualisé, pour le coup.
Affaire à suivre, on suit en tout cas. Vous retrouvez cet article et bien d'autres sur bfmbusiness.com. Merci beaucoup Marine. Marine Landau avec nous ce soir sur BFM Business. Benaouda Abdedaïm, merci Benaouda. Emmanuel, à demain. Edwige, à demain, 18h10.
Oui, ça sera le patron d'Euronext, Stéphane Boujna, qui sera avec nous. On parlera d'Europe, on parlera de l'union des marchés des capitaux. Et puis des introductions en bourse, est-ce qu'il y en a encore? Rien n'est moins sûr.
Rien n'est moins sûr, 18h10.
Il y a plein d'OPA.
Oui, il y a plein de PA, donc il y a retour de la cote.
Tout ne va pas si mal, voyez, finalement. Allez, 18h58, dans un instant, le journal, on est ensemble jusqu'à 20h avec nos experts, bien sûr, qui reviennent à 19h15. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'écho. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, il est 19h sur BFM Business, la deuxième heure de Good Evening Business dans l'actualité ce soir. Il y a donc cette petite descente aujourd'hui à Matignon des parlementaires Éric Coquerel et Charles de Courson qui a tourné court, ça a duré une heure, ils sont sortis sans les lettres au plafond qu'ils étaient venus chercher. On va bien sûr largement reparler. Le casting de la nouvelle Commission européenne dévoilé par Ursula von der Leyen aujourd'hui, Stéphane Séjourné y est, mais il y a quelques noms intéressants bien sûr. On va reparler de tout ça dans un instant dans le journal. Et puis avec nos experts qui arrivent bien sûr à 19h15 en direct sur BFM Business. On parlera aussi avec eux, tiens, je reviens à la politique, à ce climat anxiogène, économique, politique, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un patron de TPE, PME sur deux qui a tout gelé, embauche, investissement. Ça aussi, on en parlera évidemment ce soir. Nos experts, dans un quart d'heure, Marc Landré et Sia Partners, Béatrice Mathieu de L'Express et l'économiste atterré Henri Stardignac. Bonne soirée, on est ensemble jusqu'à 20h.
Good evening business, le journal.
Donc, il a été dévoilé aujourd'hui, comme prévu, le casting de la nouvelle Commission européenne. C'est Ursula von der Leyen elle-même qui l'a présenté à Strasbourg. Bonsoir Léo Dumas, vous êtes sur place. Elle n'a pas donné que des noms, elle a essayé de donner un cap aussi, Léo.
Oui, une architecture simplifiée et un mot d'ordre, la compétitivité, comme l'a recommandé Mario Draghi dans son rapport publié la semaine dernière. Et parmi les priorités fondamentales d'Ursula von der Leyen, il y a la sécurité, la prospérité et la démocratie, des axes qui doivent définir cette nouvelle Commission européenne et qui se reflètent chez les 6 vice-présidents exécutifs nommés ce matin, 4 femmes et 2 hommes, car si ces nominations ont tant tardé, c'est qu'il a fallu travailler sur la parité. Regrette la présidente de la Commission à qui les États ont proposé seulement 22% de femmes. Après négociation, c'est désormais 40% sur l'ensemble des 26 commissaires nommés, des commissaires qui devront tous se parler, avertit Ursula von der Leyen. Il s'agit maintenant de travailler de manière interconnectée et sur un pied d'égalité.
Donc ça, c'est pour la philosophie. Côté casting, Léo, c'est confirmé, Stéphane Séjourné fait partie de l'équipe. Hein.
Et oui, confirmation pour Stéphane Séjourné. Le candidat français sera bien vice-président exécutif en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. Il sera également responsable des PME et du marché unique. Un portefeuille très large, mais qui reste dans la continuité de Thierry Breton. Ursula von der Leyen, en tout cas, attend de lui qu'il mette en place les conditions pour plus d'investissement et plus d'innovation. Il sera un excellent commissaire, a-t-elle assuré devant la presse tout tout à l'heure. Parmi les autres figures importantes qui obtiennent une vice-présidente, il y a Teresa Ribera, la ministre socialiste de l'Environnement en Espagne. Elle récupère un large portefeuille sur la transition écologique. Et puis, il faut mentionner Raffaele Fitto, le candidat envoyé par Giorgia Meloni, qui devient vice-président en charge de la cohésion et des réformes. Son étiquette d'extrême droite, malgré tout, fait grincer des dents ici chez les eurodéputés. Ce sont d'ailleurs eux qui auront le dernier mot, puisqu'ils doivent auditionner chaque nommé cet automne avant toute entrée en fonction.
Voilà un casting avec quelques noms qui font causer. Merci beaucoup Léo Dumas à Strasbourg pour BFM Business. On parlera bien sûr de cette nouvelle commission avec nos experts dans quelques minutes. En France a donc été l'image forte de la journée, la descente à Matignon des parlementaires Éric Coquerel et Charles de Courson. Pour obtenir les fameuses lettres plafond, les documents qui précisent le montant des budgets de chaque ministère pour l'année suivante, ils sont ressortis les mains vides de Matignon une heure plus tard. Éric Coquerel, en tout cas, a déjà annoncé qu'il retenterait sa chance demain du côté de Bercy pour obtenir, là encore, plus d'informations. Ça aussi, évidemment, on en reparle dans une dizaine de minutes. La petite phrase du vice-chancelier allemand Robert Habeck, qui a appelé aujourd'hui l'Europe et la Chine à trouver, je cite, une solution négociée sur le dossier de l'éventuelle taxation des voitures électroniques chinoises à l'importation. Il faut éviter une guerre commerciale, a déclaré Robert Habeck aujourd'hui à Francfort. Et alors, puisqu'on parle de l'Allemagne, on a appris tard hier soir qu'Intel avait décidé de reporter un projet d'ouverture d'usine dans le pays. Bonsoir Frédéric Simotel. Comme il y a déjà eu des annonces du même tonneau d'Intel en Europe, on se demandait si Intel n'était pas en train de bouder l'Europe, Frédéric.
Le projet de cette méga-usine en Allemagne, 30 milliards d'investissements quand même, et pour lequel le gouvernement allemand devait verser 10 milliards d'euros, eh bien voilà, mise en suspens jusqu'à d'ici deux ans, en Pologne pareil, et puis ça regroupe tout un ensemble de choses qui avaient été annoncées en mars. En fait, aujourd'hui, on sent que bon, Intel a des publications financières très mauvaises, hein, ils ont un chiffre d'affaires qui a vraiment chuté entre 2021 et 2023, 79 milliards à 52 milliards peut-être en 2024, et aujourd'hui, on sent que tous les efforts se concentrent sur les États-Unis. L'administration Biden veut mettre jusqu'à 100 milliards autour de ça. Ils ont déjà versé 20 milliards. Et c'est depuis son berceau américain qu'Intel veut relancer la machine. Un, sur l'innovation, rattraper son retard sur l'IA par rapport à Nvidia ou par rapport à des nouveaux entrants comme Qualcomm. Deux, sur son business model, il va produire des puces en exclusivité pour Amazon Web Services, hein, le géant du cloud, pour le département de la défense américaine. Ou alors, troisième point, il devrait filialiser son activité de fonderie, hein, de fabrication de processeurs, et pouvoir travailler avec, alors faire d'une part venir des nouveaux investisseurs et de l'autre pouvoir travailler avec d'autres industriels. Bon. Donc voilà, vraiment nouvelle stratégie d'Intel. Malheureusement pour l'Europe, et eh bien c'est, et puis il y avait même un centre de
à Saclay, il y avait
personnes qui avait déjà été annoncé en mars qui serait reporté. Donc voilà, l'Europe, on verra plus tard.
Bon, ça veut pas dire qu'Intel boude l'Europe. Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. Et puis alors, tenez plus léger pour finir. Figurez-vous que ce soir, la chaîne de télé américaine ABC va commencer à diffuser HPI, en tout cas une version américaine de la série française diffusée par TF1. Série française qui, au passage, a connu un succès phénoménal à l'international. Léa Rojot nous raconte ça.
C'est une première pour une série créée en France, la première à être diffusée en prime time sur un network américain sur ABC. Une version adaptée d'HPI, 13 épisodes ont été tournés en anglais avec des plans, des dialogues et des intrigues similaires à la version française. Le budget investi dans cette adaptation est très conséquent et fait partie de ceux en haut de l'échelle de la production audiovisuelle américaine, selon le patron de Newen qui distribue la série. Une consécration pour HPI diffusée sur TF1, elle a enregistré la meilleure audience de fiction l'an dernier avec des pics à 10 millions de téléspectateurs. Un succès qui s'étend à l'international. La série a été exportée dans 107 pays et adaptée en version locale dans 7 pays, notamment en Grèce et en Pologne. Portée par le succès d'HPI, la fiction française ne s'est jamais aussi bien vendue à l'étranger. 215 millions d'euros en 2022 et 203 millions d'euros en 2023. Nouvelle étape l'an prochain avec l'adaptation du Bureau des légendes par Georges Clooney pour Paramount.
Ah bah ça aussi, on attend de voir. Léa Rojot avec nous sur BFM Business, 19h10. On va sur les marchés. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé ce mardi à la Bourse de Paris ?
Mais plutôt bien. On termine sur une hausse de 0,51%. On échoue à maintenir les 7500 points qu'on a dépassés en séance. Mais 7487 points, le volume de change, bon, correct sans plus, hein, 3 milliards, un petit peu plus, hein, 3,1 milliards d'euros d'actions négociées. Le DAX à Francfort, plus 0,5%, plus 0,7% pour l'Eurostock 50. Alors, la techno se portait bien. D'ailleurs, l'Euronext Tech Leaders gagne un peu plus d'1%. ST Microelectronics, plus forte hausse du CAC 40, plus 2,73 à 25,57€. Mais on a aussi des valeurs un petit peu plus traditionnelles qui étaient aux avant-postes. Saint-Gobain, plus 2,7 à 80,78€. Edenred, plus 2,39 à 36,42€. Il y a un secteur, en revanche, qui signe une nette contre-performance. Alors, il y avait une dépêche Bloomberg qui parlait cet après-midi de l'éventualité de pourparler de paix autour de l'Ukraine. Et ça a suffisamment été pris au sérieux par les marchés pour faire reculer, alors assez sensiblement, le secteur de la défense. Thales, notamment, signe la plus forte baisse du CAC 40 à moins 3,8%. Puis on a Dassault Aviation aussi, moins 2,73 à 185,60€. Sinon, c'est plutôt du tout bon sur cette journée de bourse. Belle hausse, plus 0,51%. Et l'euro face au dollar, 1,1121.
Merci beaucoup Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment. Le Dow Jones qui perd 0,2%. On est dans le rouge, 41 534 points. Et puis le Nasdaq pendant ce temps-là qui lui grappille 0,1%. C'est calme, 17 613. Tout ça à la mi-séance, 19h11. Nos experts arrivent dans un instant. De quoi est-ce qu'on parle ? Bah de la petite descente du jour du côté de Matignon de messieurs Coquerel et de Courson. Ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et puis bien sûr le casting de la nouvelle Commission européenne. Stéphane Séjourné, il y a quelques noms qui font un petit peu causer quand même ce soir. Donc on va reparler de tout ça entre autres jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là, nos experts, jusqu'à 20h pour refaire l'actu du jour. De quoi est-ce qu'on parle ce soir ? Du budget, Éric Coquerel, Charles Le Courson, qui sont ressortis bredouilles de leur petite expédition à Matignon aujourd'hui. Les patrons de TPE-PME qui gèlent leurs investissements en attendant d'y voir plus clair. Et puis, bien sûr, le nouveau casting de la Commission européenne. Il y a des choses à dire. Bonsoir à nos experts. Henri Stardignac est avec nous. Bonsoir, Henri.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés, Béatrice Mathieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Grand reporter économie à l'Express, Marc André, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant associé chez SIA Partners. Ça, là, ça aura duré une heure en tout et pour tout. Éric Coquerel, Charles Le Courson qui se sont pointés à Matignon aujourd'hui pour espérer obtenir les fameuses lettres plafond. Vous savez, ces lettres qui définissent le montant des crédits ministère par ministère. Ils sont ressortis les mains vides au bout d'une heure, mais Éric Coquerel ne lâche pas l'affaire. Écoutez ce qu'il disait tout à l'heure.
On se demande ce que ça cache. Pour aller vite, on se demande pourquoi ils s'enferment dans cette vision, j'allais dire, peu démocratique des choses. Nous le dénonçons et je peux vous dire déjà, je verrai si le rapporteur général veut m'accompagner, que demain, moi, j'irai à Bercy, puisque c'est de Bercy que sont partis ces documents, pour les exiger et voir si Bercy a exactement la même réponse. Mais cette situation devient absolument insupportable, intenable et non compréhensible.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que l'ancien DIRCAP de Bercy, c'était Jérôme Fournel, qui est passé devenu DIRCAP de Michel Barnier. Donc, il va retrouver à peu près sur les mêmes informations. Il n'y a pas d'obligation de fournir les lettres plafond aux députés avant le dépôt du projet de budget non. au Parlement. On est d'accord ?
Non, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'obligation. Bon. Donc, ils ont tout à fait... moi, je ne dirais pas qu'ils ont fait chou blanc. En fait, ils ont tout à fait réussi leur opération de communication et de cinéma et de faire beaucoup de mousse autour de ça. En faisant... Et les mots qui ont été prononcés par M. Coquerel sont tout à fait évidents. On nous cache quelque chose. Donc, ça entretient le « on nous cache », c'est suspect, on nous ment, etc. Toute cette espèce de tambouille mini-complotiste qui est assez détestable dans le climat actuel. Oui. Que voulez-vous qu'il leur donne ces lettres plafond qui ont été calées le 20 août dernier sont évidemment caduques aujourd'hui. On comprend bien que Michel Barnier a envie de mettre un petit peu sa patte dans ces lettres plafond, qu'il n'y a pas de toute façon de ministre de l'économie ni des comptes
ni de ministre tout court.
Ni ministre tout court. Donc, quelles lettres voulez-vous qu'ils envoient ? Mais on nous cache quelque chose.
Mais alors,
donc, ça alimente une hystérie autour du budget et c'est extrêmement dommageable.
C'est ça qui manque pas de sel, c'est qu'on lui cache quelque chose, mais peut-être des bonnes nouvelles, puisqu'on entend qu'on commence à entendre parler de hausse d'impôts, notamment pour les entreprises
pas dans les plafonds.
Peut-être qu'on cache des bonnes nouvelles, Henri Stardignac, finalement, dans
oui,
ces...
Le problème, c'est que le gouvernement est très en retard
Il n'y a pas de gouvernement. Budget, que évidemment, ce n'est pas la faute du gouvernement qui n'existe pas, mais c'est la faute de M. Macron qui a mis très 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 longtemps à constituer le gouvernement. Il n'y a pas de ministre, donc on ne voit pas très bien ce qu'il peut y avoir dans ces lettres. Et surtout, il est un peu normal que le gouvernement prenne un peu de temps pour... élaborer un budget et on peut pas arracher.
C'est ça. Donc on ne cache rien.
On peut pas arracher des mains des ministres des documents qu'ils sont en train de.
Donc vous soutenez pas la démarche. Vous ne soutenez pas la démarche de messieurs Coquerel et Courson aujourd'hui à Matignon.
Non, c'est une démarche qui est purement fictive, publicitaire, comme l'a dit, Béatrice. Bon, évidemment, il y a des choix politiques à faire. Bon, on peut regretter que ces choix ne se font pas au grand jour. Mais ces choix n'ont pas encore été faits.
Il faut du temps. Oui, Marc Landré.
Deux remarques. Un, on sait ce qu'il y a dans les lettres plafonds parce que c'est la reconduction de celle de l'année dernière.
Oui.
Avec l'inflation. Gelée.
Voilà. Alors, gelée, ce qui correspond à des économies de 10 milliards, hein, si on tient compte.
Donc, on le sait.
Donc, 492 milliards d'euros de crédit, on reconduit à l'euro près les crédits de l'Europe.
Donc, on le sait. Alors, donc, Coquerel et Courson, qui étaient déjà au Parlement l'année dernière, qui ont voté ou n'ont pas voté le budget 2024, savent ce qu'il y a dans cette plafond. Ça, c'est la première chose. Mais si vous vous rappelez, quand Éric Coquerel est devenu président de la Commission des Finances en 2022, il avait déjà fait une descente à Bercy au moment de la préparation du budget en disant « Je veux aller voir des dossiers fiscaux, je veux aller à la direction du budget pour voir un certain nombre de dossiers. » Il était déjà ressorti, bredouille également. Donc, au final, il ne fait que reconduire un épisode qu'il a déjà fait. Comme l'a dit Béatrice, en termes de communication, ça lui permet de faire son petit...
Mais c'est très réussi parce qu'on en parle aujourd'hui.
Bien sûr,
il a réussi son coup de com', il a réussi son cinéma et il fait
Courson parle pas, d'ailleurs.
Et Courson... Moi, je trouve...
On parlait un petit peu tout à l'heure, mais bon...
Non, mais c'est dans la logique du bruit politique permanent de LFI. Ce qui, je trouve plutôt dommage, c'est que Charles-Amédée de Courson, qui est quand même un député de longue date, qui est quand même quelqu'un qui connaît d'ailleurs très 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 bien la matière budgétaire...
Je sais pas s'il aura bercé demain, lui. Hein,
se livre à cet exercice de basse politique... C'est dommage pour lui.
Non, parce que en fait, il y a autre chose à faire, bien sûr. Il y a d'autres choses à faire. Ça serait de demander effectivement des dossiers sérieux, voilà, sur des points bien précis. Tandis que là, on va à la pêche pour pêcher quelque chose qui n'existe pas.
Au-delà de cet épisode, il y a effectivement cette petite musique qui monte depuis quelques heures. Oui, il y aura des hausses d'impôts. Alors, qui va bénéficier avec donc,
c'est
va
en inévitable. Faire les frais. Mais il l'a dit dès le soir de sa nomination.
Alors, on nous parle des entreprises. On nous parle des entreprises profitables. On nous parle des revenus.
Non, mais quand il a parlé de justice fiscale, qu'est-ce qu'il fallait entendre derrière justice fiscale? Évidemment, des hausses d'impôts compte tenu de la situation budgétaire que l'on a. Donc, où vont aller ces hausses d'impôts? Alors, je crains que ça soit un peu plus que sur la tranche des très 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 hautes fortunes et que ça descende quand même un tout petit peu plus bas. Mais on a alors effectivement les LR disent oui, il y a une ligne rouge, etc.
Mais il y a 36 lignes rouges.
Voilà, il y a que des lignes rouges. Donc
de tous les côtés.
Il faudra bien que des lignes rouges soient abattues. Mais ça c'est le jeu politique. Dès le début de la négociation, on dit nous on met une ligne rouge et puis après les lignes rouges bougent. Mais compte tenu de la situation budgétaire. Je ne vois pas comment on peut trouver les 100 milliards qu'il faudrait trouver.
D'ici 2027. Pour ramener les déficits sous les 3% du PIB, ça, note du Trésor.
Ce n'est pas possible, mais même si on n'en trouve pas 100, même si on en trouve. Mais déjà, les 20 ou 30 milliards qu'il faut trouver pour l'année prochaine, ça va être déjà très compliqué. Et ça, il va falloir en trouver tous les ans. Ce n'est pas possible si on n'augmente pas les impôts.
J'ai plein de questions par rapport à où placer le curseur. Est-ce qu'il faut un one-shot, notamment sur les bénéfices des entreprises, contributions plus aisées?
Il y aura.
Est-ce que vous craignez un one-shot? Tout à l'heure, on discutait avec Anne Lechypre, disait, moi, je crains les one-shot, parce qu'en général, après, on a du mal à s'en défaire des one-shot. Voilà. Comme ça s'est vu dans certains pays européens, cela dit. Il y a eu des one-shot sur le
terrain. C'est possible. Bon, c'est une chose qui est concevable de dire, le 33, le 25%, il passe à 33% jusqu'au moment où on sera passé en dessous des 3% de déficit.
Juppé en 95.
Bon, c'est une solution. Il paraît difficile de rétablir l'impôt sur les grandes fortunes. Ce serait nécessaire, mais disons, c'est pas dans le programme du gouvernement.
Ça ramène pas
c'est possible.
C'est du symbolique.
Ça peut rapporter beaucoup si on veut bien le faire avec la force nécessaire. Mais c'est pas ce gouvernement qui le fera. Non. On peut augmenter un petit peu. L'IR pour les contribuables les plus aisés. À titre provisoire, là aussi, tant qu'on n'est pas en dessous des 3%. Bon,
on y sera et
ensuite, il y a plein de petites mesures possibles. Ah. Supprimer la TVA à taux réduit sur les hôtels, cafés, restaurants, etc. etc.
Alors, fait partie
mais le problème, c'est... Bon, les Républicains avaient dit pas de hausse d'impôts, et donc il faudrait qu'ils mangent un peu leur chapeau.
Mais les Républicains ne pèsent rien à l'Assemblée nationale. Donc il y a quand même un moment...
Ils n'ont beau de rien peser en proportion,
il faudra avoir le soutien et le vote de l'ex-majorité présidentielle.
Oui. Double, alors double question.
Et qui ne se dédiera pas par rapport à ce qu'elle a voté depuis 2017. Et ça, c'est un point important.
Double question. Où placez-vous le curseur, voilà. Où
mais il y aura, mais ça, le curseur, ça va être ce que la négociation va permettre d'obtenir pour qu'il n'y ait pas de censure. Au moins dans l'immédiat. Donc, en vérité, on va voir en fonction du rapport de force qui va s'instaurer au Parlement. Un, en fonction de l'équipe gouvernementale qui sera nommée, dont on ne sait rien aujourd'hui, et deux, de la politique qui sera nommée. Parce que pour l'instant, on parle d'hommes, mais on ne parle pas de politique. Là, on parle effectivement, est-ce qu'il y aura des hausses ou pas d'impôts, mais on ne sait rien d'autre. Or, pour pouvoir voter ou non une censure, notamment après la déclaration de politique générale de Barnier début octobre, ça va être sur la base d'une politique qu'il va affirmer. Oui. Et les gens, les députés vont se positionner par rapport à cette politique, et pas uniquement par rapport à des hommes. Et sur les hausses d'impôts, je le disais au préalable, l'ex-majorité présidentielle ne se dédiera pas. Et Emmanuel Macron, avec le peu de pouvoir qui lui reste, ne se dédiera pas.
Et le RN qui cherche une respectabilité du côté des milieux patronaux...
Mais le RN, il a une stratégie politique qui est très claire, comme LFI. C'est-à-dire qu'en vérité, il joue pour l'instant l'odeur de la respectabilité, mais s'ils peuvent faire tomber le gouvernement très vite pour provoquer soit des nouvelles élections, soit une présidentielle anticipée, ils iront.
Mais on ne pourra pas rétablir... Commencer le rétablissement des finances publiques sans un minimum de hausse d'impôts, c'est pas possible. Donc il se
dédie. Est-ce que vous croyez au one shot?
Encore faut-il qu'on veuille rétablir les finances publiques.
Non, mais le problème c'est qu'il faut envoyer rapidement un papier à Bruxelles.
Et
dans ce papier à Bruxelles,
oui, mais là, on a un peu plus de délai.
Relativement précise pour dire on va passer un jour. Pas trop loin,
en 2030.
Sous les 3%, et ensuite, on continuera jusqu'à, il faut au total 140 milliards. Donc, il faut quand même envoyer quelque chose à Bruxelles. Sinon.
Oui, non, même pas. Rappelez-vous, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? On devait envoyer au printemps, notre programme de stabilité à Bruxelles. Il se trouve qu'il y a eu une élection présidentielle. Donc Emmanuel Macron a dit, je ne l'envoie pas maintenant, je l'enverrai après les élections et après la constitution d'une nouvelle majorité et d'un nouveau gouvernement. Ce qui fait qu'on a envoyé avec 6 mois de retard un programme de stabilité qui n'avait même pas été voté par le Parlement.
Oui, mais c'est la France. On s'en fout, c'est la France.
Et on ne va pas faire le débat qui va être tout à l'heure sur Breton question de la perte d'influence de la France au niveau européen. C'est la France. Je pense que les partenaires européens commencent à en avoir un petit peu ras la casquette de c'est la France. Et de ces passe-droits toujours donnés à la France. Et à un moment.
Ça fait 25 ans, 30 ans que ça dure, Béatrice.
Oui.
Au passage, ça fera un peu bizarre. On vient juste de voter des nouvelles règles budgétaires européennes. Et la France dirait. On s'assoit complètement dessus. Oui. Bon, on peut avoir effectivement 3 mois de retard. Il y a des tas de pays qui ont eu du retard. Mais dire. On n'en tient absolument pas compte, c'est difficile.
Au passage, vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, dans le cadre du rétablissement des comptes publics, on ne parle que de hausse d'impôts et de fiscalité en hausse, on ne parle pas du tout de baisse de dépenses. Relativement, là ça passe sous le radar. Mais où est-ce que vous allez chercher?
Il y aura des baisses de dépenses fiscales, donc des hausses d'impôts.
Non, mais il y a des niches sur lesquelles il faut effectivement s'attacher.
Mais ça sera des hausses d'impôts.
Ce sera des hausses d'impôts.
La niche du trait, ça c'est évident, il y a des abus quand même, il va falloir voir. Et l'apprentissage. Ça a été très largement documenté, 25 milliards d'euros. Donc, je veux dire, c'est la politique d'emploi la plus expansionniste depuis.
Et vous allez aller gratter combien de milliards comme ça en cumulé?
Mais 25 milliards, ça fait quand même beaucoup.
Combien de milliards?
Si on les ramenait à 20 ou donc, entre 15 et 20.
Je vais pas vous lancer à 2 minutes de la pause sur le débat de la réforme de l'État qu'on n'a pas mené depuis la réforme de l'État. Vous savez,
on peut gagner 20 milliards en supprimant. Des petites niches fiscales, il y a un certain nombre de rapports qui le montrent. Le problème, c'est que ça se fait que 20 milliards une année,
c'est 20 milliards une année.
Et une remise à plat du périmètre de l'État, véritable remise à plat, que même Emmanuel Macron n'a pas faite, dont il n'avait même pas parlé pendant sa campagne 2017, non. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, la question va se poser, le sujet va se poser réellement?
C'est
le travail d'un quinquennat entier.
C'est un choix politique de présidentiel, ça. C'est un choix de société. Donc on ne peut pas le faire à l'issue d'une initiative perdue.
Sans majorité
à l'Assemblée.
Je suis bien d'accord.
Donc ça c'est sûr, c'est quelque chose qui est ce grand comment dire Big Bang est repoussé à 2027. Donc c'est impossible de le faire avant.
Vous le voyez,
donc
là, en 2027, il y a des candidats qui le proposent et s'ils sont élus, mais sinon ça paraît difficile, surtout que les périmètres de l'État, que voulez-vous supprimer? Bon, ce que voulez-vous supprimer sans compensation?
J'insiste sur, une minute avant la pause, j'insiste sur le one shot. Est-ce que vous croyez à une ponction sur les revenus aisés, les entreprises profitables? J'attends aussi de voir d'un peu plus près ce qu'on appelle les entreprises profitables. Oui, mais un one shot, je reprends ce que disait Emmanuel tout à l'heure. One shot. Attention, le one shot.
One shot qui durera 4 ans.
Ça fait peur et ça s'éternise et c'est dur de s'en défaire. C'est comme le sparadrap de Ténadoc.
On a bien réussi à supprimer la vignette automobile.
Oui. Était un one shot. Ce qu'Henri Sardignac dit très bien, je pense qu'un one shot en disant, ils vont le présenter jusqu'à ce qu'on rentre.
D'autres l'ont fait, c'est pour ça que je
dans les clous européens. Et puis après, on verra bien.
On a déjà une surtaxe à l'IR.
Oui, oui.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a une surtaxe à l'IR qui est valable jusqu'au moment où on n'aura plus de déficit.
C'est ça. Bien sûr.
C'est tranquille.
Mais il y aura, bien sûr. Franchement, l'équation, elle est tellement complexe, ils ne peuvent pas faire l'économie d'une hausse d'impôts.
Et puis quand le gouvernement le propose, LR ne le veut pas, le refuse de le voter à l'Assemblée. Les autres le voteront, ce qui fait que ça fait une crise politique nouvelle. Le gouvernement tombe parce que LR quitte le gouvernement.
La démonstration est implacable. Nous irons vers des hausses d'impôts qui seront ce qu'elles seront et qui dureront ce qu'elles dureront, évidemment. Allez, il est 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h34, on est reparti jusqu'à 20h avec Marc Landré, avec Béatrice Mathieu, avec Henri Sterdignac. Tenez, on parlait du RN à l'instant. C'est intéressant parce que pour éviter la censure du RN, il va falloir se fier un petit peu à ce à quoi il croit sur le plan économique. Et alors, c'est le quotidien, l'opinion qui nous racontait ce matin, c'est assez intéressant. Le RN, ça y est, a mis à jour son logiciel économique, son programme économique. Enfin bon.
Il a mis à jour.
Ils l'ont réactualisé, on va dire. Bah, ils ont le temps, il n'y a pas d'élection.
Ils l'ont nettoyé.
Ils l'ont nettoyé. Alors, c'est intéressant parce que, qu'est-ce qu'on lit notamment dans ce petit fascicule qui a été présenté ce week-end? Donc, on donne des gages au patronat au milieu d'affaires. Donc, on parle toujours de baisse des impôts de production. On soutient une révision sur les allègements de charges. On note qu'il n'est plus question de baisser la TVA, vous savez, sur les produits énergétiques.
En vérité, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des choses qu'on ne dit plus, mais on continue à dire la même chose.
Alors.
C'est ça. Le vrai problème, c'est ce qu'on ne dit plus.
On ne parle plus d'annuler la réforme de l'assurance chômage. Etc. Donc il y a toujours plus de dépenses, mais il n'y a toujours pas les propositions de recettes en face. Comment est-ce que vous regardez?
Si, les propositions de recettes, il y a, c'est l'immigration.
Oui, mais enfin, c'est pas. C'est...
Ah, mais c'est... Et puis la lutte contre
la fraude. C'est pas les mannes providentielles, on est d'accord,
la lutte contre les mannes. Non, toute personne sérieuse le sait. Oui. Mais eux, ils continuent à le dire, et en tout cas, ça marche dans l'opinion, puisque de plus en plus de gens votent pour eux, convaincus en partie par le bien fondé de leur thèse économique.
On ne le pas encore vraiment à jour sur ces questions économiques.
Je
ne
suis pas sûr qu'ils
avaient bafouillé pendant la campagne.
En l'occurrence, parce que jusqu'à présent, c'était tellement un peu
C'est de moins en moins grotesque, ceci dit.
Ouais. Alors là, on voit
Il y a eu plein de renoncements pendant la campagne.
Dans ce fascicule, c'est la stratégie de la responsabilisation. On est responsable. Donc, ils vont dire, Bruno Le Maire, il y a un leg catastrophique, etc. Donc, comprenez, on ne peut pas tout faire. Donc, la TVA, ils ne l'inscrivent pas, mais bon, Louis Alliot continue d'en parler. On sait que ça coûte très cher, que c'est profondément injuste. Mais bon, voilà. Donc, ils jouent sur le flou. Et puis pareil, sur la réforme de l'assurance chômage, ils disent, on va pas revenir dessus. Donc, tout ça, c'est pour montrer au milieu d'affaires, regardez, on est responsable, nous, on fait pas de hausse de dépenses totalement inconsidérées. Et on vous a écouté, on baisse les impôts de production. Ça, c'est pour l'industrie et le TI.
On sent que les tentatives de drague auprès des milieux d'affaires, autant ça a pu marcher autant du côté des patrons de TPE, PME, autant du côté des grandes entreprises. Enfin, on a raconté ça au printemps dernier, au moment des élections, ça n'a pas vraiment pris. Enfin,
non,
c'est
ça quand même
un programme produit français.
Oui.
C'est un programme produit français, donc qui a des aspects sympathiques, qui dit qu'il faut rapatrier l'industrie en France. Donc voilà. C'est un programme dans lequel, effectivement, on reprend les exigences des patrons sur l'impôt sur les productions. On a même, c'était pas dans le programme précédent, autorisé les syndicats maison à se présenter au premier tour des élections. Je pense que c'est nouveau.
Ça, les syndicats sont contents.
Par contre, il reste des idées un peu saugrenues, du genre ne pas faire payer d'impôts aux personnes de moins de 30 ans.
Oui. Bon, ce qui passerait pas devant le Conseil constitutionnel.
Voilà, il y a le soutien au nucléaire, ce qui est sympa, mais on s'en traverse. Les attaques contre l'éolien et contre le solaire, ce qui est complètement ridicule. Et puis, bien sûr, il y a des mesures, comment dire, particulièrement déplaisantes, comme ne pas verser d'allocation de prestations familiales aux parents, aux enfants dont les deux parents ne seraient pas français, ce qui, là aussi, ne passerait pas au Conseil constitutionnel et qui n'est pas très sympathique.
Donc en 8-9 mois, d'ici la prochaine dissolution éventuelle pour se mettre à jour. Voilà,
oui, pour ajouter ce qu'ils ont enlevé ou ce qu'ils ne disent pas. On parlait tout à l'heure en première partie de la réforme du millefeuille de l'État. Ouais. Je veux dire, on sait que le RN a une position assez affirmée sur le millefeuille administratif et la suppression d'un certain nombre de strates, notamment l'intercommunalité, les départements. Ça a disparu de leur programme, de leur plateforme législative. Là. Donc, est-ce que ça va revenir ou pas? On verra bien. Ils ne parlent plus de la réforme des retraites.
Voilà, j'allais dire ça.
Dans le programme, il y a la réforme des retraites, parfaitement explicitée avec la retraite à 62 ans.
Rien sur, si jamais on revient au pouvoir maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la réforme de l'année dernière? Il parle de l'horizon de revenir à une retraite à 62 ans à terme, mais pas comment on y va, avec quels moyens et sous quel horizon.
Ils sont bien censés déposer fin octobre comme prévu une proposition pour abroger la réforme.
Elle est déposée, elle sera discutée, débattue.
En ce qui concerne les retraites, il y a quand même un autre projet avec 62 ans pour tout le monde et 60 ans pour ceux qui ont commencé avant 20 ans, 42 années de cotisation. Donc on peut pas leur reprocher d'avoir oublié cet aspect. Bon. Le problème, bien sûr, c'est que les promesses aux patrons ne sont pas financées.
Alors, les patrons, justement, au milieu de tout ça, ils sont complètement paumés. On le savait, mais on a encore eu des chiffres aujourd'hui très impressionnants. Chiffre qui est sorti du dernier baromètre BPI France, le Labrex Ecote, qui dit quoi? Vous avez 51% des patrons de TPE-PME qui disent que le climat politique depuis la dissolution a eu, je cite, un impact fort sur leur activité. 44% de ceux qui avaient des projets d'investissement les ont maintenus. Seulement 44%. 51% de ceux qui avaient des projets d'embauche les ont maintenus, les restes les ont annulés. Donc là, c'est ceinture, quoi. Très clairement.
Et pas que dans les petits patrons. Hein. C'est valable partout. Moi qui rencontre beaucoup de décideurs économiques aujourd'hui, vous n'en croisez pas un qui vous dit c'est funny au bar et je continue comme avant. Tout le monde a le pied sur le frein en attendant de voir ce qui va se passer. Et c'est pas la nomination il y a 15 jours de Michel Barnier à Matignon qui change quoi que ce soit, et la non-désignation d'un gouvernement aujourd'hui et le folklore autour du budget 2025. Je veux dire, donc là, ce que dit ce baromètre, je veux dire, en vérité, est toujours vrai aujourd'hui, et va, à mon avis, perdurer au moins jusqu'à la fin de l'année.
Ce que disent les auteurs de l'étude, c'est ça peut très vite s'inverser. Au moment où vous avez une clarification, un gouvernement nommé, un discours de politique générale, des grands axes présentés...
Non, mais on peut dire deux choses contradictoires. D'une part, jusqu'à présent, les embauches ne se sont pas effondrées. Elles restent à des niveaux relativement satisfaisants compte tenu de la faiblesse de la croissance. Et puis, d'autre part... les petits patrons, dans ce genre d'enquête, ils sont effectivement extrêmement versatiles, et puis ils ont tendance, effectivement, à dégrader la situation.
Peut-être
quand on leur pose la question, effectivement, ils répondent. Quand on leur tend la perche en disant,
oui, mais peut-être,
ils répondent oui, bien sûr, c'est la situation politique.
Bichonne le salarié, mais ils n'emploient pas. Vous entendez la moitié qui disent, on a gelé nos projets d'investissement, on a gelé nos projets d'embauche, effectivement.
Non, mais Julien, ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'incertitude, sur les hausses d'impôts, seront-elles pérennes, pas pérennes, quel impôt, l'IS, pas l'IS. Évidemment, dans ce contexte-là, ils attendent, et c'est normal d'en savoir un peu plus, de voir le cadre fiscal, et puis, quand ils l'auront vu, ils décideront. Si ou pas, ils remettent leur projet d'investissement comme ils voulaient le faire en début d'année. Donc ça, c'est tout à fait normal, et ça va se traduire sur les chiffres de croissance. Pour le moment, il y a eu un petit effet JO sur le troisième trimestre, qui de toute façon qui est lilliputien et qui va jouer à l'inverse sur la croissance au quatrième trimestre. On aura sans doute un chiffre négatif. Et il est possible qu'aussi, par une sorte d'effet de traîne, on ait aussi au premier trimestre 2025 quelque chose qui ne soit pas bon. Donc on va être techniquement dans une espèce de stagnation, mini-récession.
Donc la machine est grippée, là, clairement.
Comment pourrait-elle ne pas l'être?
Comment pourrait-elle ne pas l'être?
On est sur une croissance à 1% l'an. et on nous annonce des mesures respectives.
Enfin, si on commence à se satisfaire,
ça veut dire qu'on va faire zéro.
Si on commence à se satisfaire systématiquement d'une croissance à 1%, oui, moi je veux bien. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'on se satisfait d'une croissance à 1%.
Oui, mais c'est pas.
On nous dit là est la croissance potentielle de la France,
non,
c'est 1%.
Non, quand même pas.
Et quand vous avez un président de la République qui vous dit finalement sans gouvernement, ça marche pas si mal.
Bon, oui.
Ça vous incite pas à l'optimisme.
Arrêtez tout. Bon, on va parler Europe parce que alors on se demandait si du coup on allait l'avoir comme prévu après le coup de sang de Thierry Breton hier. Ben finalement oui, Ursula von der Leyen a présenté aujourd'hui le casting de sa nouvelle commission. 27 noms, 16 hommes, 11 femmes et quelques noms qui retiennent l'intention. On va en reparler dans un instant. Écoutez Ursula von der Leyen, elle est 17 secondes pour nous donner la philosophie de sa nouvelle commission. Écoutez.
Wherever we come from,
d'où que nous venons, quelle que soit notre fonction, nous devons tous travailler ensemble. Nous devons débattre, nous devons rester indépendants. La seule chose qui doit nous guider, c'est l'intérêt européen.
Forcément. Alors, ils sont 27, hein, donc on ne va pas faire l'inventaire des 27. Bon, confirmation que Stéphane Séjourné est dans le lot, donc commissaire européen en charge de la stratégie industrielle et de la prospérité avec le titre de vice-président exécutif. Il y a un débat depuis tout à l'heure pour savoir s'il a les épaules finalement, s'il est assez capé pour mener les combats qui l'attendent, Béatrice.
C'est-à-dire qu'on ne l'a pas connu, moi je n'ai pas entendu de grandes déclarations de Stéphane Séjourné sur la reconquête industrielle, est-ce qu'il a pensé ces sujets-là, d'autonomie stratégique, voilà. Je n'ai pas entendu jamais Stéphane Séjourné parler de ces sujets-là, donc il y a un problème. Après, il y a un problème sur on se targue en France, c'est super, il a un poste de vice-président exécutif. Donc, il y en a six autres. Donc, il y en a,
voilà. Quatre femmes, six hommes.
Voilà. Il y a quand même il va y avoir des redondances avec certains autres poids lourds de cette commission, notamment l'espagnol Ribera, puisqu'elle est en charge de la transition.
Concurrence et transition.
Lui va devoir, ça a été redit par l'Élysée cet après-midi, lui va devoir présenter un plan de décarbonation de l'industrie, forcément en accord avec Madame Ribera, où la question de l'énergie va être essentielle, parce que comme l'a bien montré le rapport Draghi, un des problèmes en fait de la perte de compétitivité de l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est cet écart béant sur les coûts de l'énergie, avec une Espagnole qui est contre le nucléaire. Donc là, bon, ça va être un petit peu compliqué. D'accord. Et puis, le gros sujet, c'est aussi la question de la défense. On voit bien que Breton rêvait aussi d'intégrer, il s'était déjà autoproclamé le commissaire à la défense, donc il imaginait structurer une industrie de la défense, mais il y a un commissaire letton à la défense,
en gros,
et qui va avoir aussi un poids.
En gros, entre lignes, vous êtes en train de dire qu'il va se faire bouffer, quoi. C'est ça que vous expliquez.
Il a le poids politique, il est limité, et sa compétence aussi, donc ça va être compliqué.
Henri Sterdignac.
On aurait préféré que reste à ce poste quelqu'un qui connaisse l'industrie, qui soit Thierry Breton, par exemple, ou même Draghi, par exemple, quelqu'un qui effectivement porte un projet industriel pour l'Europe. Or là, on ne voit pas le projet industriel que porte Stéphane Séjourné, bon, à part avoir une place, quoi. Mais et d'ailleurs, ça pose l'ensemble du problème du contenu de cette commission, où il n'y a pas de personne qui porte vraiment un projet. Il y a un refus du politique dans cette commission. Des gens qui sont là pour des raisons. Voilà, il faut un Hongrois, il faut un Tchèque, mais il n'y a pas de choix politique, que ce soit en matière industrielle, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière d'énergie. C'est le défaut de l'Europe.
C'était assez dysfonctionnel avec Breton.
Oui, vous avez vu à quel point, effectivement, on le soulignait tout à l'heure, tous les poids lourds de l'ancienne commission sont tous partis. Les Thierry Breton, les Gentiloni, les Timmermans, les Borrell, les Verstegger.
Ben oui.
Non, mais Vestager, elle l'avait déjà dit, et c'est pas une surprise.
Oui, mais 20, en vérité, il y a 27 personnes qui forment un tout. Et la politique, c'est celle de ce tout. C'est la politique sur laquelle...
l'Europe dans toute sa splendeur.
Bien sûr, c'est la politique et c'est le programme sur lequel Ursula von der Leyen s'est fait réélire sur la base d'une coalition en associant des contraires. Donc, en vérité, la politique de Stéphane Séjourné, et je vais pas faire de jeunisme, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il pense sur tel ou tel sujet? Puisqu'il va porter la politique de la Commission, pas sa politique à lui, pas ce qu'il pense lui. Il va porter ce que la Commission...
Et ce que le Conseil veut. Donc voilà. Parce qu'on fait comme si...
Le Conseil des chefs d'État et du gouvernement...
La diplomatie, ça joue au Conseil européen.
Mais ce qu'a fait Emmanuel Macron, il a fait un choix... tactique. Il a fait un choix tactique de casting politique. Plutôt que d'avoir un commissaire sous-capé, enfin très doué, mais qui est peu un portefeuille diminué et qui finalement s'engueule très vite avec la présidente de la Commission européenne pour sortir sur un clash, il a dit je sécurise un beau portefeuille à forte visibilité, peut-être moins d'impact, mais à forte visibilité pour donner l'impression que je continue à exister et à peser en Europe.
Mais avec moins de champs, le numérique
Mais si Breton était resté, ça aurait été encore pire.
Mais non.
Non, mais Breton ne pouvait pas rester. La situation était imbuvable entre les deux.
Donc, c'était pas
plus
possible.
Personne ne le supportait.
Mais il aurait peut-être fallu débrancher dès le mois de juin, dès les élections. Il aurait dû dire.
Mais c'est ce que voulait faire.
Sauf qu'il a été renommé par Emmanuel Macron.
Il était renommé par Emmanuel Macron.
Henri, vous voulez dire un mot. Il y a eu la dissolution.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que les commissaires jouent un rôle quand, effectivement, ils ont une stratégie, une direction, et qu'ils peuvent quand même faire évoluer l'Europe, que ce soit au niveau de l'industrie, au niveau social. Il ne faut pas être à ce point
fédéraliste.
Timmermans a été l'architecte du Green Deal, du Pacte Vert. Donc, il a eu un rôle extrêmement important.
Il y a eu le Pacte Vert. La Commission peut jouer un rôle quand même d'impulsion.
La Commission.
C'est important d'avoir
des gens
qui jouent ce rôle.
Tiens, pour rebondir. Des gens
compétents.
Pour
ça que Draghi à l'industrie, ça aurait eu de la gueule.
C'est bien dit. Pour rebondir justement sur ce que disait Béatrice à l'instant, est-ce que le fait que Thierry Breton ne soit plus dans cette commission, est-ce que c'est une véritable perte d'influence pour la France? Écoutez ce que disait le député Renaissance Benjamin Haddad. Pour lui, ça ne va rien changer cette histoire finalement. Écoutez.
Bon, l'intérêt de la France, c'est d'être la plus influente possible en Europe. Et là, on a avec Stéphane Séjourné, quelqu'un qui a une expérience européenne, qui a été président de groupe, qui connaît les principaux acteurs européens, qui a été ministre aussi des affaires étrangères. Et le plus important pour nous maintenant, c'est de pousser un agenda pour que l'Europe cesse d'être naïve sur les grands sujets économiques et industriels, sur les sujets géopolitiques. Le plus important, encore une fois, vraiment, ce sera le fond. Est-ce que l'Europe est capable de protéger ses industries, d'investir dans les énergies d'avenir, d'investir dans le nucléaire, d'avoir une vraie politique de défense autonome? Et là, il faudra s'assumer, il faudra bâtir des coalitions, il faudra aussi assumer des rapports de force à Bruxelles quand il le faudra.
Voilà, la question, est-ce qu'en perdant Breton, la France perd des plumes? C'est ça, finalement, le sujet, ce soir.
Non, mais elle perd des plumes, c'est pas avec Breton qu'elle perd des plumes, c'est avec le Macron qui est extrêmement affaibli au Conseil européen. Au Conseil européen, c'est très clair. On est puissant quand on est puissant chez soi.
C'est ce que dit Merkel, voilà.
Mais bien sûr, mais elle a raison. Et Macron n'est plus puissant chez soi. Donc il pouvait avoir l'illusion d'être encore le maître des horloges à Bruxelles. Là, Ursula von der Leyen, c'est assez marrant d'ailleurs la relation entre von der Leyen et Macron. C'est-à-dire que c'est Macron qui a été le pygmalion de von der Leyen. Mais c'est lui qui avait sorti le nom de von der Leyen du chapeau. Eh bien, elle s'est émancipée de son créateur et elle lui a dit « je veux ça ». Et son créateur, eh bien, qui est très affaibli, eh bien, a fait ce qu'elle voulait. Donc il y a une perte d'influence, effectivement, de la France avec un portefeuille qui est un titre soi-disant ronflant qui ne fait pas l'influence.
Et
c'est
en
pas
même
le
temps,
titre qui fait l'influence.
Et en même temps, on a perdu pas mal d'influence au Parlement européen parce
qu'il
y a trop de Français à l'extrême droite
qui ne pèsent rien
au Parlement européen.
Et tout à fait.
Voilà, tout ça n'est pas brillant.
Bon, bref,
et
tout
en
ça
plus,
vous...
voilà, si on ne respecte pas le traité, on va encore être... Le mouton noir.
Tout ça fait pas planer, hein, cette nouvelle commission. Vous entendez, non? Je sais pas, vous laissez pas ça.
Il n'y a pas beaucoup de sujets ce soir qui nous font planer.
Hein. Oui, excusez. Qu'est-ce que je vous dise? On verra demain. Eric Coquerel va à Bercy. S'il va avec Charles de Courson, ça fait quand même des belles images, admettez-le.
Voilà, c'est ça. Ça fait du cinéma.
Voilà, ça nous occupe. En attendant d'avoir le gouvernement qu'on aura peut-être ce week-end ou lundi.
Si on a un gouvernement.
Pourquoi on n'aurait pas de gouvernement?
C'est quand même compliqué à construire.
Oui, c'est un peu que ça soit compliqué.
C'est un peu
Ça aussi, ça nous fait vivre. Allez, 19h52, l'extra time pour terminer. Vos avis du soir sur 30 secondes, coup de cœur, coup de gueule. C'est la règle impitoyable. Qui va commencer, Henri? Voulez-vous commencer? 30 secondes, allez, c'est à vous. Henri.
Allez, je vais faire l'éloge de Madame Cécile Duflot et de Oxfam, parce que Oxfam a lancé... on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais là, elle a lancé un sujet extrêmement important, qui est l'héritage en France, le fait que... Il y a beaucoup, beaucoup de moyens pour les plus riches d'échapper à l'héritage, que ce soit le pacte Dutreil, l'assurance-vie, le fait que les plus-values sont purgées par le décès. Tout ça fait que les plus riches échappent complètement à l'impôt, qu'ils ont un taux d'imposition de 10% au lieu de 45%, contrairement aux familles... au testament entre personnes non liées par un lien familial, et donc ce serait bien que le sujet soit sur la table.
On l'a remis, on en a parlé sur BFM Business de ce rapport Oxfam aujourd'hui qui a fait beaucoup de bruit, le coup de gueule d'Henri Sterdyniak. Béatrice Mathieu, 30 secondes Béatrice, c'est à vous.
Eh bien, je vais vous parler d'une enquête que j'ai faite dans l'Express cette semaine. On parle plus beaucoup des histoires de Russie, de sanctions, etc. Et j'ai fait une enquête qui montre comment, en douce en fait, alors qu'on n'en parle pas du tout, Poutine a une stratégie très bien huilée de mettre l'agriculture européenne et française sous dépendance de ses engrais, avec un chiffre qui marque, puisque les importations d'engrais russes depuis le début de la guerre en Ukraine ont progressé de 80%.
De 80% depuis le début de la guerre.
En France, et 115% au niveau européen.
À lire dans l'Express.
À lire dans l'Express, eh ben, voilà.
C'est ce que nous ferons évidemment. Marc Landré, 30 secondes pour terminer.
Ça va te faire rire, Guillaume. Je fais un coup de cœur aux JO, parce que j'ai été l'un des premiers à soutenir les JO sur ce plateau ici, à dire que ça allait être un formidable engouement à l'époque où tous les Cassandres disaient « il faut fuir Paris », etc. Ouais. Donc ça a été une fête formidable. Bravo Tony Estanguet. Tony Estanguet, président de la République, je le dis depuis 5 ans.
Ministre.
Je pense qu'il sera président en 2027 à la place d'Emmanuel Macron. Je lui souhaite. Et franchement, si ça pouvait garder un peu de baume au cœur en cette rentrée grâce au JO, tant mieux. Bon. Allons-y gaiement.
La fête aura été belle jusqu'au week-end dernier, évidemment, cette belle parade. Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Marc Landré, consultant associé chez SIA Partners, Béatrice Mathieu, grand reporter économie à l'Express, et Henri Sterdyniak, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Merci à tous les trois, à très vite avec plaisir. 19h55, je vous redonne les grands titres de l'actu. Avant Tekkenco dans un instant, donc l'image de la journée, cette descente des parlementaires, on s'en lasse pas. Éric Coquerel et Charles de Courson pour obtenir les fameuses lettres plafond pour 2025. Ils sont ressortis de là les mains vides une heure plus tard. Mais Éric Coquerel donc nous annonce qu'il retentera sa chance demain du côté de Bercy. Le nouveau casting donc de la Commission européenne dévoilé aujourd'hui par Ursula von der Leyen à Strasbourg, et confirmation que Stéphane Séjourné sera de la partie. Il est commissaire en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. Et puis cette petite phrase du vice-chancelier allemand Robert Habeck, qui appelle l'Europe et la Chine à trouver, je cite, une solution négociée sur le dossier de la taxation des voitures électriques chinoises à l'importation. Il faut éviter une guerre commerciale, a dit le vice-chancelier allemand. 19h55, à suivre la météo, Tekkenco, François Sorel. Nous, on se retrouve demain, bien sûr, 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.